crois que c'est parti. Je crois que nous sommes en ligne. Je fais une petite vérification. Oui. Enfin, vous avez toujours des messages, hein, si vous nous écoutez. Fungloui, les poulpes, les poulpons. Fungloui, messieurs.
Ah oui, on est en ligne.
JP,
Bonsoir à tous.
JP me croit pas, j'y crois pas, quoi.
Ah, j'ai vérifié, on sait jamais.
Bonsoir, JP.
Et voilà,
Bonsoir, Steve.
bonsoir tout le monde.
Bonsoir, bonsoir les
Et
gars.
bonsoir à
Bon.
nos auditeurs.
Ouais, et puis à ceux qui nous suivent sur le talk chat que j'ai réactivé pour l'occasion,
Ils sont
où nous
déjà
sommes
deux.
quatre. Allez,
C'est
donc pour notre
parti.
second Poulpcast vidéo, hein, après le succès phénoménal aux States, même du Poulpcast vidéo numéro 1.
Et même en
On
Belgique.
commence. Bah, ça a dépassé les frontières d'autres kings.
Largement.
Hein. Nous faisons un second Poulpcast vidéo. Cette fois-ci, un sujet assez peu finalement abordé en podcast ou en podcast. En podcast assez sûr, en podcast assez généralement. Ah oui, déjà une chose pour ceux qui veulent intervenir en ce moment, vous pouvez aller sur le talk chat. Hein, je l'ai mis sur la home page si vous voulez poser des questions et tout ça auxquelles on répondra pas. Et non, non, je plaisante. Voilà. Donc voilà, le podcast de ce soir est dédié au côté, hein, parce qu'on parle toujours du côté derrière l'écran, le maniaco-dépressif qui se prend pour le maître du monde. Donc ce coup-ci, on va parler un peu des tarés qui viennent s'asseoir pendant 4 heures de l'autre côté, à entendre éviscération et autres groupes borgbonimes ululants. Et donc pour ce second podcast, on vous a donné un peu l'ordre du jour. Je vous le rappelle un petit peu pour vous situer, parce qu'on va essayer de respecter un peu l'ordre, donc puis va faire assez vite parce qu'il y a du biscuit. Donc la préparation pour un joueur, on parle bien du côté joueur hein, ce soir, on va essayer, hein, vous pouvez crier dans le talk chat dès qu'on sort. Le deuxième, c'est l'investigateur en lui-même. Le troisième partie sera le joueur, et la quatrième partie sera le joueur et l'équipe. Le joueur au sein de l'équipe. Comment gérer une équipe, et bien sûr, en dernière partie, ben, on verra ce qu'on n'a pas répondu, ou alors ce qu'on n'a pas traité, ou alors les questions que vous avez pu vous poser. Donc, avant de commencer, déjà, on va faire un petit Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oui, alors ce superbe chant,
Ça casse.
c'est pour les 5 années de Sans Détour.
Ah
Il faut
bon?
quand même les remercier, hein, parce que
Bon
c'est quand même
anniversaire!
grâce. Bah,
Ils les font pas, hein?
on fait la hola. Hola!
Ouh!
Oh, allez, c'était génial! Donc 5 ans, grâce à eux, bah, c'est grâce à eux qu'on a à nouveau du poulpe, qu'on a quand même 24 ou 26, je sais plus, les parutions. Donc pas au bas mot, je sais pas, je dirais 500, non. Ouais, plus de 500 pages, je suis con, non? C'est plutôt 100 pages par parution. Ouais, on est à 5000 pages. Donc on les remercie, hein, parce que je vous rappelle que gentiment, ils nous envoient en PDF presse pour les critiques, et ensuite ils m'envoient à moi, en tant que maître du monde, une version papier. D'ailleurs, il y aura peut-être un événement qui sera fait autour de toute cette de toute cette, toute collée, cette je vais y arriver, autour de cette collection. Donc ça, c'était la première chose pour l'anniversaire des 5 ans de Sans Détour. Et la deuxième chose, c'est que pour cet anniversaire, je me suis un peu arraché les poils du tut. Et donc ça fait pleurer, vous le voyez pas.
Ouais, c'est
Mais
le poil le plus long du corps.
toutes les données de tous les suppléments de Sans Détour ont été rajoutées. C'est-à-dire les notes niveau d'intrigue, niveau d'investigation, niveau d'action, durée, nombre de joueurs, difficultés. J'ai tout rajouté dans tous les scénars de toutes les parutions de Sans Détour. Donc voilà, c'était pour
Bravo.
donc c'était pour les remercier et puis surtout pour vous donner, parce que je l'avais entendu parler dans Radio Rollist, il pensait que c'était déjà sur Tok, ça n'y était pas. Donc je l'ai rajouté rapido, comme ça y est maintenant.
Parfait.
Donc on va lancer le podcast, donc dédié aux joueurs, les maîtres, dehors.
David Payton. Non, mais
je
j'ai déjà été joueur. Je suis pas que maître.
C'est vrai. Mais donc, on va commencer par la préparation. Parce qu'on a beau dire, être joueur, ça se prépare. C'est pas forcément quelque chose de simple, c'est quelque chose qui peut se préparer. Bah, de préférence, ça se prépare quand on sait qu'on va jouer avec Toulouse, hein. Et même quand on va, enfin, dès qu'on va jouer au jeu de rôle, moi, j'ai tendance à pas me préparer. Donc, les premières choses qu'on va vous essayer de vous donner, hein, comme d'habitude, ce sont que des idées et nos façons de faire, et c'est pas la vérité éternelle, mais ça s'en rapproche. Ce sont les quelques règles d'or, les règles d'or du joueur. Je vais laisser JP énoncer la première qu'on a notée, la plus simple.
Ah oui, mais elle est de toi, hein, mais bon, c'est pas grave. Ne pas lire les scénarios.
Alors, ça paraît assez con, mais voilà. Les collectionneurs aigus et tout ça, je sais qu'il y en a c'est pas pour qui c'est pas facile. Moi, perso, je lis jamais un scénar si je vais pas le jouer dans les deux semaines, dans le mois ou dans un proche avenir. Je sais pas pour vous.
Non, mais je lis jamais, hein. Ce serait con, ce serait gâcher le plaisir de la découverte.
Il y en a qui lisent, parce qu'il y en a qui savent, il y en a qui savent qu'ils vont pas jouer, donc ça je peux comprendre, mais
ouais, d'accord.
On sait jamais. Il ne faut jamais lire, jamais. Donc première règle, c'est assez simple, ne pas lire les scénars pour pas essayer de se faire. En plus, il y a un peu dommage quand on lit les scénarios. C'est que moi, quand je prépare un scénario en tant que gardien, je donne pas forcément le titre du scénario. Donc c'est assez délicat. Dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je donne une liste de tous les scénarios et je demande aux gens de cocher tous ceux qu'ils ont lu ou joué pour pouvoir piocher sans être obligé de leur dire « bah voilà, on va jouer la maison au fond du bois ». Ce qui veut dire que dans ces cas-là, les joueurs, quand ils arrivent, ils se doutent que si on va au fond du bois, voilà, il y aura une maison.
Et des bois.
Donc ça, c'est la première chose.
Ouais. Ouais, maintenant, quand c'est des scénarios que t'écris toi-même et que t'as pas encore diffusé, c'est...
Alors voilà, on retrouve JP, voilà, forcément. Monsieur, j'écris des scénarios, donc forcément ben ouais. Ça... On... forcément, on ne peut pas les avoir lus. C'est le top, je suis assez d'accord.
Ouais.
La deuxième chose que j'avais notée, mais c'est pas forcément pour moi, mais c'est le coup des noms et prénoms.
Ouais, mais ouais, ça c'est pour tous les jeux de rôle.
Steve, voilà, ça paraît
je sais pas
bête.
Ce que Steve en pense, mais
Steve.
Les joueurs ont toujours des beaucoup de difficultés.
Ah, tu veux dire pour les personnages?
Ouais, ouais.
Avoir au moins pensé, parce que moi, le nombre de fois où... maintenant, j'arrête les Hariko ou les Luke Skywalker, mais la plupart des gens, c'est tout bête, ils se font cueillir soit sur la description, on en parlera plus tard, soit sur le nom, quoi. On dit, vas-y, trouve un nom, et là, ils sont là.
J'ai eu un Dolph Lundgren une fois à ma table.
Voilà.
Moi aussi j'en ai eu un. Et je lui ai même trouvé une photo entre deux séances. Il a pas été déçu, j'avais Dolph Lundgren torse nu qui montrait ses biceps, ça. Je pourrais te la retrouver à l'occasion.
Ouais, non, c'est trop horrible.
Donc je pense que très honnêtement, voilà, c'est des petites règles, c'est tout bête. Alors bien sûr, faut que ce soit dans le ton, hein, le nom et le prénom, ça peut être lié à votre origine sociale, à la race, dans certains jeux qui sont un peu typés, votre pays d'origine.
Ouais, enfin maintenant, en même temps, si t'as préparé
les... Si vous me laissez deux secondes,
ouais.
je vais vous trouver un générateur en ligne, là.
Ah, c'est bien ça.
Alors, j'en ai un là, je vous montre ça, il faut juste que je retrouve l'appli, partager l'écran, ouais, c'est ça. Voilà. Ouais.
Oula, Miskatonic River Press.
Et voilà, c'est Miskatonic River Press.
C'est du lourd.
Qui se trouve en ligne sur miskatonicriverpress.com et vous choisissez donc le sexe de votre investigateur et vous générez un nom dans le plus
style.
Dans la plus. Voilà. Ça c'est bien ça.
C'est assez simple. On n'a pas besoin de faire preuve d'une grande imagination, mais ouais. C'est toujours sympa quand on arrive.
Maintenant, je sais pas vous, mais j'essaie toujours d'avoir des persos préparés à l'avance, ou que les joueurs préparent leurs persos à l'avance. Donc du coup, le nom et prénom, ils ont eu le temps de le réfléchir et de le préparer. Donc.
Bon, ça, ouais. C'est, après, je dirais que ça va un peu dépendre.
Maintenant, j'allais dire si les joueurs relisent un peu leurs fiches, se remettent un peu dans la peau du perso, relisent un peu le background du personnage avant la partie.
Ça ouais, mais à la création.
Ben, ça dépend quand tu...
À la première création, quoi.
Oui, d'accord.
Ouais, si on l'a fait par anticipation avant, c'est bon, vous avez à loisir d'aller sur tous les sites de Steve et puis, ou même sur toi qu'on peut en générer, hein. vous pouvez en générer un, mais bon, voilà, pensez-y, c'est tout con. Alors, on va attaquer rapido sur la troisième règle d'or. Attention, on va rentrer dans
la... Ah oui, elle est loin, celle-là. Ouh là là. Oui, je vais parler du contrat social, je sais que ça risque de hérisser le poil de certains.
Narrativiste.
Ah non,
Non, non, non. Bah, ce que je veux dire, ce que je parle dehors, voilà, c'est foutu. Non, mais ce que.
Contrat social du jeu.
Voilà. Vas-y. On est là pour jouer à Cthulhu. Donc, on est là pour faire un scénario, un jeu d'enquête face à l'horreur indicible.
Faux.
Et si on veut. Comment faux?
Comme dirait. Horreur indicible, pas forcément si je veux jouer Pulp.
Oui, d'accord, mais bon. On reste dans l'esprit Cthulhu. Et si on veut, oui non, mais si on veut poutrer du monstre, oui, soit on fait du pulp, soit on fait du donjon, tu vois.
Disons que quand tu parles de contrat social, je l'associerais pas au nom l'appel de Cthulhu qui veut dire horreur indicible et machin. Je dirais on va faire une partie de l'appel orientée. Si les joueurs ne le savent pas comment je maîtrise dans ces cas-là, je leur explique, je leur dis voilà, c'est moi, c'est il y a de l'horreur, c'est pulp, mais on peut voir des monstres et on peut leur foutre un coup de boule. Ou alors non, moi dans mes parties. Si vous voyez un monstre, vous êtes mort, mais voilà, je suis d'accord avec toi. D'accord.
À partir du moment où tu annonces la couleur, ben les joueurs le savent, ils arrivent en partie avec ça, et bon, il faut qu'ils jouent le jeu aussi, sinon ça peut pas marcher.
Ce qui veut dire qu'en tant que joueur, si on vous a pas donné le contrat social, si on vous a pas dit quel va être le thème de la partie, voilà, demandez-le, n'hésitez pas.
Non, non, c'est open bar, vous faites ce que vous voulez. Scooby-Doo RPG.
Ah ouais, par exemple, pourquoi pas.
On peut le faire. Moi, perso, j'aime bien... enfin. Si le maître a voulu orienter un peu sa partie, histoire de pas foutre la grouille dès le départ, j'aime bien savoir comment il va l'orienter si je le connais pas encore, quoi. Mais c'est vrai. À partir du moment où on vous l'a un peu indiqué en disant voilà, ça va être un scénar un peu Indiana Jones, c'est parti, et dans ces cas-là, bon, on va essayer de respecter la chose dans les règles d'or, quoi. Suivant ces règles d'or, ça va rester aussi une règle un peu de bonne conduite. On va se demander, alors à l'appel de Cthulhu, c'est assez simple, mais on va se demander qu'est-ce qu'il faut lire avant d'arriver en jeu de rôle. Parce qu'il peut y avoir des gens qui vont découvrir les jeux de rôle grâce à ce podcast. C'est formidable.
Tu crois ça va faire vraiment.
Mais disons que voilà, il y a beaucoup de jeux qui ont un livre du gardien, un livre du joueur. Donc dans ce cas-là, c'est assez simple. En simple et pas simple, hein, parce que vous pouvez avoir des livres du joueur, genre c'est 250.
Ouais, ça fait peur, ça.
Donc, le truc super chiant. Ou alors vous avez l'appel au Cthulhu, ou finalement, ou même un jeu avec un livre du joueur, mais où le gardien ou le maître maîtrise bien les choses et préfère vous les dire directement ou au fur et à mesure. Mais il peut s'avérer que vous ayez à vous infuser au minimum quelques règles. Et c'est ce dont tu parlais, toi, JP, ou alors Steve, je sais plus, de l'idée de filer une espèce de petit livret aux joueurs en même temps que leur feuille de perso.
Ah, c'était pas moi, ça.
Non. C'était JP. Mon jeu, un livret pour les joueurs, je le diffusais, c'est toi, hein.
L'idée, c'était de se faire un petit résumé des règles. Voilà, un peu le
ah, genre de pense-bête.
Voilà, de se dire, les règles de l'appel de Cthulhu, c'est du dessin, il y a des caractéristiques et tout, puis faire peut-être un petit récapitulatif des règles de combat, comment on gère une enquête, comment on gère les points de vie et tout ça, puis de faire deux, trois petites choses. Ça peut être sympa, ça peut être très utile, et puis ça peut faciliter aussi le jeu en convention, où les gens finalement... ce qui peut être intéressant dans ces cas-là, c'est que quand on commence la partie et que les joueurs vont se mettre autour de la table, vous en tant que personnage, vous avez votre petite fiche, vous regardez votre perso, s'il a un historique, vous le lisez, et puis après vous avez de quoi potasser le temps que le gardien fasse un peu le tour des personnes pour finaliser les personnages. Donc,
ouais, je l'ai fait à Delta Green et ça marche bien. Un petit pense-bête avec le résumé des règles. Moi, ouais, c'est pratique.
Donc ça peut être sympa, parce qu'il faut voir que le système à l'appel, c'est quand même assez simple, et vous n'allez pas non plus avoir des heures à passer dessus. Mais si on formule cette question-là, c'est parce qu'il peut y avoir des jeux à dérivés cthuliens, on va dire, qui ont des règles un peu plus compliquées. Bon, j'en ai pas trop en tête. Mais par exemple, vous pouvez avoir Gumshoe. Des trucs comme ça, donc voilà, l'idée c'est de se dire un petit livret avec des choses principales, ça peut toujours être intéressant. Alors on peut avoir lu les règles et avoir fait un petit laïus. Le truc à l'appel au Cthulhu, c'est que l'appel au Cthulhu est tiré sur l'œuvre de
Lovecraft.
Et que donc, il peut y avoir des joueurs qui ont lu du
Lovecraft.
Et dans ces cas-là, comment faisons-nous?
Bah, moi, je trouve que c'est un plus quand même, hein. Parce que ils connaissent déjà un peu l'œuvre, ils connaissent un peu le ton.
Alors, en quoi c'est un plus? Parce que toi, t'as tendance à jouer très Lovecraft.
Oui. Donc, forcément, pour moi, c'est un plus parce que, ouais, il y a toute l'ambiance, il y a toute la manière d'aborder le mystère du mythe, la manière D'accord. dont les investigateurs réagissent, et donc, ça peut donner un exemple au joueur, la manière dont un personnage peut réagir par rapport au mythe.
Je dirais, objection, votre honneur, car dans beaucoup des nouvelles de Lovecraft 1, ils comprennent pas beaucoup ce qui se passe.
Non, c'est vrai.
Les scénarios de JP, les joueurs, si vous nous écoutez, bon séjour à l'asile. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est les œuvres de Lovecraft.
Ça peut spoiler aussi, c'est clair.
Ouais, alors il y a ça. Ouais. Donc ça, dans la limite, tu peux demander, tu fais comme moi, je fais ma liste de scénarios, tu fais la liste des nouvelles de Lovecraft et tu dis qui est-ce qui a lu quoi. Parce qu'il y en a qui sont vraiment très inspirés quand même des œuvres. Mais c'est surtout que c'est très déprimant, Lovecraft. Enfin, moi, je me mettrais pas autour d'une table pour être sûr qu'à la fin du scénar, je parte en courant. Enfin, après, il y a des gens qui sont déprimés. Hein. Peut-être qu'ils sont en Belgique.
Il neige en Belgique.
C'est ça. Le plat pays. Mais non, ce que je veux dire, c'est ce que je comprends dans ta démarche, c'est que le côté indicible, le côté glauque, le côté difficilement compréhensible par l'humain, d'avoir lu du Lovecraft, c'est super.
Ouais,
maintenant, il faut pas que ça guide, pour moi, les joueurs. Je sais pas ce que t'en penses, Steve, de ton côté.
J'ai l'impression d'être un peu minoritaire, mais j'assume. Moi, je trouve que la magie de Lovecraft, je pense qu'elle passe vraiment quand on la connaît pas. De la même manière que la première fois que tu lis une nouvelle de Lovecraft ou que tu lis quelques nouvelles de Lovecraft, tu vas vraiment rentrer dans son monde et tu vas vraiment être saisi. Je pense que s'il y a un joueur qui a la chance de ne jamais avoir lu du Lovecraft, bah, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout et lui dire ne lis rien, tu vas découvrir pendant la partie. Lui poser juste quelques bases, comme on l'a dit tout à l'heure.
D'accord. Pour un nouveau joueur qui viendrait te voir et qui te dirait est-ce que j'ai besoin de lire une nouvelle ou conseille-moi une nouvelle, tu lui dirais à la limite pour ta première partie, laisse faire.
Oui. Ouais, complètement. Ouais. Parce que et puis même après, il y a disons tous les choses qui sont redondantes ou qu'on retrouve régulièrement chez Lovecraft. Ça m'embêterait d'avoir un joueur qui a déjà lu une nouvelle dans laquelle il y avait un profond.
Ouais, c'est clair que ça spoil, évidemment.
Qui avait la malédiction, enfin qui avait le masque d'Innsmouth ou ce genre de choses. Et c'est des concepts qu'on trouve très facilement dans les principales nouvelles de Lovecraft. Et puis, pour enchaîner aussi sur la question des règles, si le MJ n'a pas pensé à faire un petit livre récapitulatif, je dirais aux joueurs, surtout ne lisez pas les règles. Parce que ce que vous en aurez retenu risque de pas être la même chose que ce qui sera appliqué à table. Et je pense que vous en tirez peut-être plus de frustration que de plaisir ou de fluidité de jeu. Limite, fiez-vous plutôt à votre MJ, gardien. Moi, des règles, puisque finalement c'est lui qui a le dernier mot.
Mais quand je prépare un livret avec un pense-bête pour les règles pour les joueurs, je ne mets que les règles que je suis sûr de pouvoir appliquer. Ouais, voilà. Ouais. Ça me sert autant en pense-bête pour moi que pour eux. Quoi.
Ouais, mais je pense que ta démarche, c'est vraiment la meilleure parce que c'est celle qui est à mi-chemin entre les joueurs et le...
Voilà, moi je dirais que je suis mitigé.
Si le gardien n'a rien préparé, alors dans ce cas-là,
Je suis assez mitigé parce que par exemple, il y a des règles, tu vois, les règles de coopération, les règles du deuxième essai, des choses comme ça.
Pour moi,
c'est des règles qui sont pas forcément instinctives dans les jeux de rôle, que les gens vont pas forcément penser en se disant, si je t'aide, si je fais un G, je peux te donner avec d'autres règles, hein, mais je peux te donner des succès pour que tu réussisses mieux. Pour moi, quelques petites règles, alors après, il y a les règles de combat, les règles de cascade, des trucs comme ça. Ça peut être un support pour les ludistes.
Bien joué.
Toi aussi. Et ce que je veux dire, c'est que ça peut faciliter. Par exemple, après, ça dépend des jeux. Hein. Là, on est sur l'appel de Cthulhu. Mais par exemple, si on prend un jeu, si on adapte à Realms of Cthulhu, donc qui est
Deadland, Savage World.
Voilà. Savage World, voilà, c'est ça. Où là, il y a quand même plus de règles, le dé de Joker, les choses comme ça. c'est assez sympa. Enfin, je suis à mi-chemin, donc là on est un peu sorti des règles.
C'est vrai que moi j'ai plus tendance à minimiser les règles et à improviser pas mal de règles en cours de partie, en me servant du principe de base, genre si on joue à l'appel de Cthulhu version classique, ben on lance des dés 100 et des trucs comme ça. Bon ben,
je vais pas regarder
dans le bouquin à tout bout de champ pour trouver la règle qui le fait, quoi.
Non, puis avec la V6, ils ont quand même simplifié avec les moins 10%, moins 20%, moins 30% selon la difficulté de l'action. Enfin, c'est assez simple, mais
mon bouquin de règles, je l'ouvre très rarement. Hein.
Ramener aux joueurs, je dirais, il faudrait peut-être que les joueurs pensent à poser toutes les questions qu'ils ont à poser à leur MJ au moins avant le début de la partie. Du type, tu joues un gars avec une Thompson, bah tu vas poser des questions sur les règles de rafale avant le début du jeu. Si tu joues un médecin, tu vas poser des questions sur la guérison, sur les effets des blessures, ce qui permet d'aborder par exemple la question des hémorragies ou des blessures graves.
Voilà.
Je pense vraiment que ça peut être le moment à livrer les petites règles qu'il utilise. Je pense que la Bible doit être le on doit lire dans le MJ plutôt que dans un bouquin.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, la plupart de mes joueurs n'ont pas le bouquin de règles, donc. J'ai des joueurs paresseux qui n'achètent pas les bouquins.
Donc on en est à quoi lire. Donc on vous a un peu décrit ce qu'on pensait être les bonnes choses. Et alors maintenant, on va arriver toujours dans la préparation. On n'a pas attaqué la deuxième partie de l'investigateur, mais dans la préparation, on s'est choisi la troisième partie. C'est un peu comme quand vous allez dans une échoppe tâter un melon. C'est comment choisir son gardien. Alors, comme on en discutait en off avec JP, avant que commence la diffusion, le fait est qu'il y a parfois des cas où la plupart du temps vous n'avez pas le choix. Parce que il y a un seul gardien dans un rayon de 70 km en zone inhabitée, ou alors il y a plus de gardien qui veut maîtriser avec vos potes qui sont trop débiles et qui bouffent des chips et qui en foutent partout. Alors là, on va prendre, j'irais, comme postulat, le fait que vous ayez au moins deux gardiens à votre disponibilité et que vous puissiez choisir, ou alors que vous avez un club pas très loin et que vous puissiez vous positionner un petit peu. Donc la première chose qu'il faut dans le cadre d'un jeu, la première chose sur laquelle il faut se baser, c'est de se dire ne pas se jeter dans une campagne, parce qu'on a souvent cette envie-là. On se dit waouh, une grosse aventure avec on va traverser le monde entier, ça va être super, on va avoir des trucs horribles. Non, première chose, si vous connaissez pas le gardien, et ça je pense que c'est assez immuable comme règle, c'est tenter un mini scénar, un petit scénar d'intro. Le mieux, c'est avec l'équipe avec laquelle vous êtes censé jouer plus tard, pour voir comment ça marche, parce que avant tout, on parlait de contrat, mais avant tout le JDR, c'est du social. Et c'est clair, on peut pas jouer avec des gens qu'on n'apprécie pas. Clair. Surtout ce que vous disiez sur le gardien, qui est vraiment l'insufflateur.
C'est français.
En France, on a dit
qui va insufflatouiller.
Donc voilà, c'est lui qui va balancer la sauce. Et alors, je dirais qu'il y a même la possibilité, si vous êtes dans un club, de venir soit aux soirées portes ouvertes ou des choses comme ça, ou aux journées portes ouvertes, de finalement vous mettre à côté de la table, genre le mec qui est un peu relou, mais en club ça peut le faire. Vous mettez à côté, puis vous regardez la partie comme ça pendant trois plombes, vous tournez, vous regardez les fiches et tout. Ah ouais, ça. Ah, c'est quoi ça? Alors, faut pas parler. Ne jamais parler quand il y a une partie en cours. Mais bon, voilà, vous pouvez vous mettre un peu à l'écart. Moi, ça m'est arrivé assez souvent. Je me mets dans un coin et puis je regarde et, très honnêtement, en 20 minutes, vous êtes fixé. Si le gardien, voilà, il a tous les suppléments de Rollmaster à sa gauche et puis, je sais pas, une Bible énorme à sa droite, machin, et qu'il a sa
calculatrice
devant lui. Voilà, exactement. Le dictionnaire de langue elfique et du parler noir. Vous dites, ça va être fondamentaliste. Il va y avoir de l'ayatollah. Alors que si le mec débarque avec un post-it et vous fait, bon, je vais vous maîtriser, là, on peut être dans le narrativisme. Donc, faites attention.
C'est la deuxième fois.
Donc, faites attention. Enfin, je sais pas pour vous si, alors, toi, JP, t'as le plus souvent été gardien.
Oui.
Ouais, donc, et puis, maintenant, les gens étaient obligés de jouer avec toi.
On a alterné, oui, voilà. on a alterné les gardiens au sein du groupe.
D'accord.
Donc, par exemple, j'ai ma sœur qui est historienne et qui est aussi une fan de l'appel de Cthulhu. Et donc là, ça nous a permis de changer un peu autour de la table. Et vu sa formation, elle nous torchait chaque fois des histoires bien étoffées côté background. Quoi.
D'accord.
Avec des intrigues bien velues et bien complexes.
Et finalement, la première fois qu'elle a maîtrisé, c'était une. Vous êtes parti sur une grosse partie directement ou sur un petit scénario ?
Non, c'est chaque fois des scénarios, une séance, on va dire. Donc une histoire qui suffit à elle-même. Donc,
mais bon, chaque fois pour des plombes.
Ouais, mais bon, on a par exemple, pour l'exemple, visité Venise dans les années 20. Elle nous avait fait un plan très détaillé. On a pu visiter plein d'endroits. Les personnages étaient assez hauts en couleur et assez riches. Et l'intrigue était quand même assez complexe.
D'accord. Mais donc, là, on est sur la partie choisir le gardien. Donc, il faut essayer, dans la mesure du possible, si vous pouvez. Alors, ça peut être par un échange de mails. Mm-hmm. Ça peut tout à fait être... moi, souvent, quand je monte une nouvelle équipe, ce que j'ai fait récemment, j'envoie un mail. Alors, donc, les joueurs peuvent me le demander, mais sinon, c'est moi qui le fais. Je dis, je suis plutôt un joueur comme ça, j'ai maîtrisé ce type de scénario, c'est ça qui me plaît. Et puis finalement assez rapidement après vous pouvez jouer le joueur en embuscade genre tu veux combien de pages, combien de copies doubles pour le background. Si le mec vous dit non la copie double c'est un minimum, c'est 80 pages de base, là vous dites j'espère qu'il y a
ça
pas de
faire mal ça.
Con. Mais parce que très rapidement grâce à 2-3 questions du style est-ce que tu as mis les règles, vous pouvez poser des questions, faut pas hésiter, sans les 200, faut poser des questions au gardien. Mm-hmm. Et puis sinon, si vous vous êtes raté, vous avez 4 heures à passer. Ça va pas être long, hein. Mm-hmm. Prenez des à bouffer quoi.
Et puis à boire.
Voilà, puis une console portable si jamais vous faites trop chier. Mais parce que dans le contrat social, c'est quand même que ce que vous disiez, c'est quand même de rester un minimum jusqu'au bout par déjà par respect pour la personne qui a préparé, même si votre façon de jouer ne correspond pas à la façon de maîtriser. Mais franchement, si vous avez l'occasion soit de lui parler, soit le mieux c'est de le voir. Et puis même c'est je crois que tu as des idées là-dessus, Steve, mais par exemple vous pouvez venir sur TOC, commence à y avoir pas mal de gardiens qui sont venus là. C'est con à dire, mais vous posez la question, est-ce que vous avez déjà été maîtrisé par Zlomurch, et comment vous le trouvez, est-ce que c'est un gros bitos qui fait son kéké dans les forums, mais finalement, est-ce que finalement derrière une table, derrière un écran, il est tout moisi, quoi. Donc, tu parlais d'outils, toi, Steve, à la préparation?
Ouais, c'est vrai que pour trouver quelqu'un, quand on n'est pas dans une ville, où il y a des clubs ou ce genre de choses, c'est pas toujours évident. Je sais que j'ai déjà trouvé des joueurs sur des mailing lists ou sur des forums de ma région, mais aussi sur des forums spécialement dédiés à l'appel de Cthulhu. Mm-hmm. Alors, j'ai un pour regarder là pendant qu'on...
Il y a Opal.
Qu'on discutait. Bon, alors Opal, c'est vrai que vous m'en parlez souvent. Moi, j'ai pas pratiqué pour l'instant. Je connais le forum, hein, mais...
Tu utilises quoi sinon toi?
Pas trop mes habitudes. En fait, on manque pas de joueurs dans ma région. Hein, mais je vais juste essayer de vous montrer ce que j'ai trouvé entre temps comme outil. Alors, on a l'annuaire. C'est un site qui s'appelle l'annuaire JDR, sur lequel il y a pas mal de sites qui sont répertoriés, qui sont des sites de clubs. Mmh. Et. Spécialement
jour,
dédié,
ouais.
Je sais pas, j'ai pas trop l'impression, les annuaires de joueurs et les annuaires de JDR, ça m'a l'air de dater un petit peu.
Difficile.
On a quelque chose de spécialement dédié à l'appel de Cthulhu.
Et le filon, trouver des joueurs au boulot, vous avez déjà essayé?
Sur les annuaires, et puis si tu veux, on reviendra sur les questions que je trouve aussi assez intéressantes. Ouais, là, il y a une page qui est spécialement dédiée à des joueurs, trouver des joueurs sur l'appel de Cthulhu.
D'accord.
À voir si c'est à jour, mais...
Tu t'en es déjà servi?
Il y en a même, oui. À l'époque où je cherchais des joueurs pour la campagne des masques que je voulais faire rejouer, je suis parti de là.
Ouais. D'accord.
Et enfin, il y a une page qui est spécialement dédiée au fait de trouver d'autres rôlistes, notamment des MJ, sur Place to Go, People to Be. Voilà. À visiter.
D'accord.
Ouais, pour la question des joueurs sur le boulot, ça t'est déjà arrivé, JP?
Ouais, tout le temps. Ouais, il y a beaucoup de... Là, bah, bon, mon premier groupe de jeux de rôle, c'était des amis. Mais dès que j'ai commencé à bosser, je suis tombé chaque fois sur des rôlistes, à droite à gauche.
Mais ça complique pas les relations pendant les réunions, tu sais.
Non. J'essaie de faire ça.
En train de beugler avec un litre de tripes fraîches à la main. Regarde, j'ai la photo.
Ouais, non. On essaie de rester... Je t'entends pas bien, là, Steve.
C'est un peu chaud, quand même, des joueurs, enfin, dans le cadre du travail, c'est pas coton, quoi.
Il faut rester cadré, hein. Il faut rester bien cadré, mais... Il y a un groupe de... Plusieurs groupes de jeux de rôle que j'ai montés, c'était avec des collègues de bureau, ou un collègue de bureau, et puis qui avait des amis, qui l'a invité, et bon, le groupe s'est formé comme ça.
Mais c'est vrai qu'il faut pas... Je crois que...
Et bon, ça dépend dans quel domaine on travaille. Moi, dans l'informatique, des geeks et des rôlistes, on est
tous... Voilà.
C'est dans une boîte d'info avant, là où je suis actuellement. Et c'est vrai que... Ouais, t'as raison, les gens étaient vachement plus open et étaient un peu profil geek. Mm. J'ai déjà fait du GDR avec des gens dans des anciens tafs.
Donc il y a possibilité du taf, il y a aussi tout bêtement quand vous êtes dans votre commune, moi c'est ce que j'ai fait, vous allez voir la liste des associations, donc, tout bêtement, hein, et puis après souvent comme je disais tout à l'heure, les associations font très souvent des journées portes ouvertes, ou même ils sont sympas, vous venez pour voir, et puis là en une soirée vous pouvez faire, s'il y a trois parties en cours, vous faites le tour de trois gardiens, pof, et puis vous dites lui c'est bon.
Et vous faites votre idée.
Voilà, donc et puis il y a toujours Toc, bien sûr.
Il y a aussi le GDR en ligne.
Il y a des sites qui proposent en ligne. Ça, il faudra que j'essaye, mais bon, ça sera un autre sujet. Donc là, on en était au choix du gardien.
T'as zioté un peu sur le chat là pour voir s'il y a des questions.
Ouais, non, il y a des amis à toi. Il y a le fan club de JP. Il y a Kergan. Il y a apparemment du fan club de JP.
Ah bah oui, c'est Kergan. Je le reconnais.
Donc le truc, voilà, c'est ça, choisir les joueurs, enfin choisir son gardien. Si on a la possibilité, ça peut se faire vite. Après, faut pas hésiter, parce que si Toc peut être une aide pour monter vos scénarios, monter vos parties et tout ça, faut pas hésiter à se dire j'ai jamais fait de jeu de rôle, ou je commence, ou alors j'étais gardien et je veux devenir joueur, mais je sais pas trop, j'ai reçu ça d'un gardien pour préparer une partie, qu'est-ce que vous en pensez? Faut pas hésiter, hein, on est là pour échanger, et puis on peut avoir des avis qui peuvent compléter vos... Je dirais votre ressenti comme ça, quoi. Donc là, je pense qu'on a fait un peu le tour. Ce que tu as noté, Steve, c'est très important. En deuxième point, c'était ne pas rester pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire que c'est toujours un peu délicat, mais de se dire mon gardien est vraiment pourri. Dès que je vais pouvoir, je vais me parer. Le problème, c'est qu'il faut avoir une alternative, quoi.
Ouais, c'est pas toujours évident. Enfin, alternative ou pas, parfois on a des parties qui ont tendance à tourner au calvaire, ou voire même à la répétition de calvaire, et on reste parce qu'on a des potes ou parce qu'il y a personne d'autre. Je pense que il est bon parfois de prendre la tangente, faire ça avec diplomatie, bien sûr, hein, ou discrétion, au choix.
Dans ces cas-là, vous vérifiez que vous récupérez tous vos dés, hein, parce que s'il faut revenir voir le mec, vous êtes mal.
Du rejeton des atotes. Tout ça parce que... Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé... de rester jouer avec un MJ, parce que des potes restaient aussi jouer, et sur la fin devenir vachement amer et carrément saboter certains scénarios.
Wow.
Je m'en suis voulu après, j'étais triste.
Oh, c'est pas bien ça.
Mais sur le moment, il faut essayer de couper. Le fait est que déjà, enfin moi personnellement, je deviens pas forcément pote tout de suite avec une nouvelle équipe. Faut pas, enfin. Je vais pas dire que c'est comme une activité professionnelle, mais quand je fais une partie de jeu de rôle, on fait une partie de jeu de rôle, on n'est pas forcément pote d'un coup, hein. C'est tombe pas sous le sens.
Moi, j'ai des joueurs qui sont déjà engueulés, hein.
Qui
ont quasiment failli se mettre dessus parce que...
C'est vrai?
Quand même. Ah, c'était chaud.
Les amis dans la cuisine.
Ils ont plus voulu jouer ensemble.
Bazinga. Et donc, par contre, c'est une alternative si votre équipe, comme tu disais, Steve, commence à bloquer. Dans ces cas-là, une des alternatives, c'est essayer de tourner, de faire tourner le gardien. Pas comme ça. Hein. non, de faire tourner le rôle de gardien. et que la personne qui était joueur devienne une des personnes qui était joueur devienne gardien, quitte à ce que le vous inscriviez ça assez rapidement dans votre groupe de joueurs pour que ça fasse moins genre ah non mais si non vas-y Maurice fais gardien non Jean-Paul c'est bon vas-y toi Maurice non donc essayez de se dire ben voilà on essaiera de faire tourner comme ça vous évitez la diplomatie un peu pourrie à la vonve si jamais faut le changer quoi. Et quitte à ce que en plus vous conseillez entre gardiens en disant voilà bah écoute je vais te filer un coup de main si tu sais pas comment t'organiser quoi faut pas hésiter.
Il y a les touches qui battent sur le chat qui pose une question. Comment signifier à son gardien qu'on s'ennuie? Question.
Alors là, c'est une. On n'aurait pas dû mettre le chat. On va avoir des questions super pointues. Ça va être chaud, quoi.
Bah, moi, je lui ai répondu, hein, en lui disant tout bêtement. Hein.
Tu lui dis tout simplement.
Non, moi, j'ai pas eu mes joueurs s'ennuient jamais avec moi, mais c'est clair que c'est clair que.
Tu lui dis quand JP au lieu de te marrer là, comme un con. Tu lui dis quand au gardien que tu t'es fait chier. Non mais vous rigolez mais c'est à mon avis c'est pas assez.
Je sais pas moi il faut faire un petit debriefing de partie ouais voilà.
Ouais. Alors puis, déjà tout le monde en fait pas.
Ouais mais on devrait hein. Moi j'aime bien poser la question à mes joueurs si voir ce qu'il aura plu, ce qu'il aura moins plu.
Ouais, mais t'as 10 personnes qui disent ouais c'était génial et toi t'es là je me suis fait chier comme un mort.
Ouais dans ces cas-là tu te dis ouais,
bon ça, c'est lâcher le truc. Hein.
Bon bah tu fais un debriefing par mail alors comme ça les gens peuvent dire ce qu'ils pensent en.
Ça, c'est une meilleure idée quand vous avez des gens qui peuvent être un peu introvertis ou quoi que ce soit, ou quand vous sentez qu'il y en a un qui a vraiment pas pris au jeu, c'est une très bonne idée, JP, c'est de se dire, voilà. Bon,
ça se voit aussi en cours de partie quand il y a des joueurs qui s'emmerdent.
Bon, après, une petite dose d'emmerdement, parfois, fait partie du scénar. Hein. Il y a des fois où on joue sur le contraste, où il y a une petite monotonie, on est à la bibliothèque, on cherche, on trépigne, il n'y a rien, et tout à coup, paf, il y a un truc qui se passe. Je pense qu'il faut quand même accepter un petit peu, parfois, de s'ennuyer dans un scénario. C'est pas toujours involontaire.
Non, et puis c'est un phénomène de groupe. Hein. Si on est 4 joueurs... Il faut se dire que potentiellement sur 4 heures, on va chacun parler 1 heure si on retire la parole du gardien. Donc
c'est juste.
Le gardien parle une demi-heure à chaque fois, ça fait une demi-heure par personne. Hein. Donc c'est vrai qu'il faut un peu équilibrer. Perso, par mail, c'est le mieux. Moi, ça m'est arrivé. Alors dans ces cas-là, j'utilise la diplomatie à la bombe. C'est je ne pense pas que nous ayons la même façon d'appréhender le jeu de rôle.
Ouh, ça c'est beau, ça c'est beau, ça. Ouh, ça c'est beau.
Donc ça veut pas toujours dire que je me suis fait chier, mais ça peut vouloir dire que ben non, on joue pas pareil. Moi, j'ai fait des parties de donge que j'adore, où c'était des putains de mini-maxeurs, alors que moi justement donge, comme ça finalement un corpus dur, moisi, tout ça, poutrage. Moi, j'adore m'éclater en faisant ce que doit pas faire, ce que doit pas, ce qui est pas fait, ce que mon perso n'est pas fait pour. Eh ben, je le fais forcément. Je fais des trucs de voleur si je suis sorcier, je fais des trucs de combattant si je suis voleur.
C'est comme ça.
Bon, on en parlera dans les compétences. Bah oui. Bah, le jeu de rôle, c'est fait pour aussi sortir du quotidien de l'aventure. Donc voilà, on a fait un petit tour de comment choisir son gardien. Donc c'est comme pour les melons, faut sentir le cul et voir s'il est craquelé.
C'est sûr que tu parles des melons là.
Ouais, bien sûr. On ne sent pas le cul de la dame. Donc on va attaquer le gros là. Le gros. Donc pas Obélix, mais le gros l'investigateur.
L'investigateur.
Bon, on s'est rapidement aperçu que ce podcast allait être un fin et subtil dialogue entre l'investigateur et le joueur. L'investigateur étant le personnage en lui-même, alors que le joueur étant le puppet master derrière. Et donc là, on va partir sur l'investigateur, c'est-à-dire le joueur, votre alter ego. Donc, la première chose pour qu'il prenne vie... d'ailleurs, si pendant que j'y pense, c'est complètement en aparté, mais si vous avez l'occasion de voir Frankenweenie, le dernier Tim Burton, il est excellent. Je pensais à ça avec puppet master, machin. Très très sympa. Donc... description de l'investigateur, parce que forcément, alors ça c'était mon petit plaisir quand j'étais il y a quelques temps encore gardien assez fréquemment, c'est de cueillir les gens autour de la table sans les avoir préparés en disant au fait tu ressembles à quoi, bam.
Ouais. C'est diabolique.
Souvent quand les gens y ont pensé ça va, mais alors quand je tombe sur le mec un peu introverti qui est genre en train de regarder tous ses chiffres et là il fait je suis grand, je suis petit, je suis gros. Donc, on ne l'a pas dit dans les règles d'or, mais il faut penser à la description de son personnage. Alors, comme moi je l'ai mis dans la description du point, c'est faut pas non plus aller trop loin. Hein, qui porte un slip, un caleçon Calvin Klein. Est-ce que ça va aider le scénario? Oui. Si on se bat dans le caleçon.
Si c'est le retour vers le futur, c'était Pierre Cardin.
Exactement. Ah oui, très bon. Ouais.
Donc voilà, c'est. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez sur la description. Oui. Je sais qu'il y en a qui sont adeptes entre nous trois du support.
Moi, j'aime bien la photo ou l'image, moi. J'aime bien trouver une illustration pour le perso. Ça en dit déjà beaucoup.
Ces cas-là, en tant que joueur, tu veux que le joueur la montre comme ça ou que ça lui donne un support pour la décrire?
Pour un peu des deux, ça dépend comment il le sent, mais c'est vrai que...
D'accord. Genre, il peut dire « je ressemble à ça ».
Ouais, par exemple.
Ça peut être une solution, hein. On n'est pas obligé de tous vouloir décrire. Parce qu'on s'aperçoit, et ça, je ne sais plus si j'avais retrouvé, mais il y avait un super article de l'ancien Casus Belli pour décrire des choses toutes bêtes. Mais par exemple, voilà, décrire mon nez, décrire les sourcils, le front, le nez aquilin, le front fuyant, machin, les pommettes saillantes, le menton.
Un genre de trombinoscope.
Voilà, ils avaient fait
un
décomposé, voilà, ouais, qui était très sympa. C'était à l'arrière d'un supplément de scénario. Donc le principe, c'est de décrire, faut se mettre aussi en tant que joueur dans la position des autres joueurs. C'est-à-dire que, par exemple, si j'arrive de face, je vais pas décrire si je suis un jeune et tout, si c'est marqué « mort aux vaches et aux cons » derrière, je vais pas dire « s'il y a écrit derrière si vous me voyez pas ». Si je suis assis, je vais pas dire que je suis forcément grand. Ou si on est à table en train de manger, si c'est la première description, je vais pas forcément vous dire la marque de mes pompes, ni que je suis plutôt... Enfin, faut voir, je sais pas jusqu'à où vous poussez la description de vos joueurs.
Ouais, il faut voir l'impression qu'on veut donner pour le perso aussi. La description peut donner aux joueurs, aux autres joueurs une certaine impression sur le
perso. Voilà, exactement. C'est vous avez l'impression que je suis sympathique. Vous avez l'impression que je suis un peu réservé, mais sous cette glace se cache quelqu'un de sympathique. Vous avez l'impression que je suis je suis mal luné ou un truc. Ça peut être des impressions, mais c'est.
La description peut être aussi autre que physique. Hein. Les relations que le personnage, sa réputation, s'il est connu, si on l'a vu.
Alors ça, c'est
dans les journaux, dans les médias.
Ça se rapproche plus de l'historique, ça, on va le voir juste après. Mais pour la description physique, je pense qu'on a un peu fait le tour, mais...
Moi, j'ai encore des trucs à dire sur la question. J'ai déjà fait pas mal de personnages, et j'ai vraiment observé le moment où les gens décrivent leurs personnages. Il y a très peu d'autres personnes qui les écoutent. Bon, en général, ils les écoutent pendant... une vingtaine de secondes, et ensuite ils se concentrent tous sur leur propre description qu'ils devront faire dans 5 secondes, ou sur les chips, la pizza ou le MJ. Et du coup, je pense qu'il faut que ce soit un moment qui soit vraiment concis. C'est pour ça que quand JP parlait d'une photo, pourquoi pas. On peut aussi, quand on est sur des one-shots, faire le pari d'avoir un avatar, d'avoir un personnage que les gens puissent identifier. Par exemple, je suis le vieux commerçant dans la boutique où ils vendent les Mogwai dans Gremlins. Je suis sa copie conforme, ou bien je suis comment il s'appelle, Johnny Bellefleur dans Angel Art. Enfin, je lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Comme ça, les gens savent tout de suite et mettent des images, associent des répliques, une manière de se comporter, de bouger et tout ça. Et si vous ne voulez pas prendre un personnage cliché, par exemple dans une campagne, ou parce que vous avez envie de construire quelqu'un de plus intéressant, évitez de faire dans le Balzac. Et là, vous voyez qu'au bout de ma chaînette en or, il y a une montre de gousset particulièrement impressionnante. Non, essayez plutôt de faire dans des descriptions qui sont suggestives, comme on le disait tout à l'heure. Donner des impressions, des idées. Par exemple, on a toujours l'impression que mon personnage cacherait quelque chose. Ça va aussi bien dans son regard que dans la manière dont il tient ses mains. Ou bien, on n'aurait pas envie de laisser mon personnage fermer la marche parce qu'on craindrait toujours qu'il fasse quelque chose de louche. Ou au contraire, mon personnage est jovial. C'est typiquement le genre de gars qui pourrait jouer le Père Noël dans une fête pour enfants. Je pense que des associations comme ça, ou le fait de dire ce que le personnage fait ressentir, va toujours parler aux autres personnes à table. Pourquoi ? Parce que tout simplement, elles vont coller leur propre vécu dessus. Si on dit mon personnage glace le sang, ou mon personnage irradie la, 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 le bon vivant. Chacun va y coller quelque chose. Il y en a qui vont le voir avec une belle moustache, des joues rouges et l'air souriant.
D'autres vont le voir
plutôt gros. Et enfin, il faut essayer de faire passer un message plutôt que d'écrire des objets et d'écrire des vêtements.
Voilà, et puis pas trop en dire. Faut pas trop en dire non plus, parce que faut pas dire, voilà, vous sentez que mon personnage a des secrets qu'il cache. Vous êtes en train de boire une bière dans un café en plein New York dans les années 20.
Ouais. Faut contextualiser, quoi. Faut ramener à ce que les autres joueurs voient.
Voilà ce qui peut. Enfin, il y a des choses qui sont assez faciles finalement dans la description. Il y a des choses qui vont être là. Vous savez pas décrire les couleurs de cheveux. Parlez de la coupe de cheveux. Il a les cheveux un peu fouillis. Il a la mèche bien gominée, bien collée. Apparemment, aussitôt, on sait qu'il y a quelqu'un qui fait gaffe.
Ouais.
Ou alors, ça peut être dans sa
tenue vestimentaire.
Il a l'air un peu froissé. Il a des
vêtements mal rasés.
Voilà, mais limé, il est mal rasé. Il a des cernes. Apparemment, il a raté un des boutons de sa chemise. Ça peut être des détails aussi pour montrer qu'il est un peu étourdi ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est. Ouais. Disons que c'est quand même assez important, parce que assez bêtement, c'est un peu comme quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, c'est la première impression que vous pouvez laisser. Donc, et comme je disais sur les chats avec Kergan, qui lui semble préférer la photo, pour moi, le test de la description, c'est aussi un premier test que je fais faire aux joueurs, pour savoir comment ils sont, est-ce qu'ils sont à l'aise en description.
Ouais.
Savoir si
tous les joueurs dans le
voilà, si le mec qui reste tout réservé, il me fait, ouais, je suis plutôt petit, rablé et puis sournois. Ok, je vais me dire bon bah voilà, lui il va pas trop décrire, donc je vais faire gaffe et puis je vais essayer de pas le mettre forcément en situation de vouloir trop en dire quoi. Donc voilà pour la description. Il faut qu'on avance car nous allons passer à la deuxième partie qu'avait énoncé JP, l'historique, le fameux tome 1, tome 2, tome 3, sa vie, son œuvre. Donc moi personnellement, et je suis sûr que comme JP a dit qu'il jouait plutôt des personnages dans des situations Lovecraftiennes, l'historique on s'en fout un peu. N'est-ce pas, JP?
Bon, ça peut. Non, ça joue quand même, hein. Genre j'ai joué un écrivain de 1920, H.P. Wilcox. C'était son nom. Connu dans les
cercles. Le maître t'a permis de mettre H.P.
Eh oui.
Moi ça passait pas, ça.
Non, mais bon, l'historique du personnage jouait pas mal. Pour.
T'en as écrit combien sur l'historique? Combien de lignes environ?
Une dizaine de lignes. Allez, pas plus quand même.
Oh, bah, ça va.
Ouais, voilà, on va pas faire 50 pages non plus, mais bon, ça permet de poser le personnage et de voilà. Le mettre déjà un peu dans. D'avoir un peu le feeling Lovecraftien
par rapport à ça. En réalité, si tu réfléchis, en dehors, j'irais. Alors après, ça peut être lié à son vécu personnel, à son travail. Mais là, voilà, tu veux créer un écrivain, qu'est-ce qui se passe? Dans ta tête, tu sais si, un, ça fonctionne ou pas son affaire, si c'est un écrivain maudit qui n'a jamais été publié, si, voilà, et puis tu fais quoi? Tu fais, t'écris 4 titres de bouquin pour le fun, comme ça, tu pourras en parler et tu pourras en parler.
Ouais, c'est bien. Bonne idée.
Il y a beaucoup de professions où finalement, alors après on va se dire oui, mais je suis pas forcément quelqu'un qui a écrit beaucoup, t'en fous. T'es historien, t'étudies voilà l'influence des phases de la lune sur la reproduction des moules dans la baie du Mont-Saint-Michel. Voilà. Je suis au hasard. Je suis normand, donc c'est un peu normal. Mais donc voilà, si moi j'ai vu par exemple des militaires, des mecs jouer des militaires, ben ils s'étaient créés deux batailles. Ah oui. Et à chaque fois qu'il y avait une petite scène un peu tendue et qu'il était avec quelqu'un dans le noir et tout, au bout d'un moment il sortait sa bataille, il disait voilà, et il prenait la torche et tout, et puis il disait ouais, alors à ce moment-là le croiseur arrivait par la droite et donc bam, feu, allez à bâbord. À chaque récit, en réalité, ouais, c'est si on prend juste le côté, je dirais profession, vous pouvez noter 2-3 choses, ses théories, ce qu'il a découvert, les pays où il est allé, des choses comme ça.
Les après, relations qu'il a avec
exactement. Alors après, on peut rentrer dans l'historique personnel, voilà. Je sais pas si vous demandez à vos joueurs de décrire
ses avoirs aussi, hein. Oui, sa famille, ses avoirs, il est propriétaire, si ce genre de choses. Autonome au niveau
argent. Tu demandes que ça soit décrit devant les autres joueurs?
Non, c'est plutôt libre.
Mais alors,
c'est quelque chose qui décrit
à son MJ, c'est ça?
Excuse-moi, attends.
C'est quelque chose qu'il va décrire au gardien, alors?
Oui, on va dire ça.
D'accord.
Ouais, ouais, ouais. Et bon, par rapport, il va décrire ça avec le gardien, et bon...
Ça donne des ressorts de jeu.
Mmh. Oui, ça donne des ressorts de jeu, ça permet d'étoffer le personnage, d'être plus que des simples chiffres alignés sur une fiche. Et puis bon, ça donne de la matière aux joueurs pour pouvoir interpréter son perso en jeu face aux autres joueurs.
Ouais, tout à fait. Alors après,
il faut pas que ça prenne 10 pages non plus, quoi, hein, comme
va. Non, c'est surtout que la plupart des joueurs à l'appel de Toulouse, ils sont peut-être voués à mourir, donc faut pas non plus que le type je m'y suis mis à fond, j'y ai passé une semaine, j'ai écrit 20 pages, t'es mort. Tu vois. Non, faut rester dans une simple mesure. Moi souvent quand je demande un historique, souvent je le demande pas forcément, mais quand j'en demande un, je vais dire voilà ce que t'as dit JP, vous me faites 10 lignes en me décrivant un peu votre historique professionnel et personnel. Puis comme ça, on peut rebondir. Enfin, moi, je suis pas du genre forcément à toujours, j'irais taper sur les historiques en disant, voilà, ta femme est encore morte, tes enfants se sont encore fait kidnapper. Mais par contre, ça peut donner des idées si, par exemple, le type a écrit un bouquin, il me les a dit. Et là, dans ces cas-là, pour relancer l'aventure, ça peut être une super fan. Ah, mais vous êtes monsieur machin, mais
j'ai lu votre livre, c'est fantastique, je suis un plus grand fan.
Et c'est très très sympa si dans le cadre de ce que tu disais, JP, l'échange a été fait en dehors des autres joueurs. Ce qui est cool, c'est que voilà, et le mec il va dire ah oui mais bien sûr et tout, puis les autres ils vont faire ah mais putain mais elle connaît son bouquin, j'y crois pas. Et souvent moi j'ai vu, ça crée de l'émulation, c'est-à-dire le mec qui arrive avec 3-4 trucs qui les sort en début de partie. Souvent, moi, j'ai vu les autres dire « Ah putain, attends, faut que je note aussi quelque chose, parce que c'est fun ce qu'il a fait. »
Ouais, ça a un effet d'entraînement par rapport aux autres. Parce que tous les joueurs ne le font pas, évidemment. Donc, voilà. Les joueurs, le jeu de rôle, c'est la partie de jeu de rôle, et c'est tout, quoi. Ils en discutent pas trop hors jeu, ni sur des forums, ni...
Voilà.
Ça dépend des gens, quoi. Donc, forcément... Alors... Ça entraîne,
l'idée aussi, c'est de se dire, donc on a dit, faut pas non plus tout décrire, et puis ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'une, et ça c'est marrant, c'est quelque chose que je faisais pas avant, mais qui finalement se fait de lui-même, c'est qu'une grosse partie de votre personnage va se créer, de son historique, de sa façon d'être, va se créer au fur et à mesure des parties. On n'a pas besoin de venir avec ça de background.
Il suffit
de faire 2-3 campagnes et vous en avez. Et puis surtout la description, non, ça a pas tellement changé, mais son comportement, son tempérament et tout ça. Moi personnellement, parfois je suis parti sur des personnages que je décrivais comme ça sur le papier, et puis je me suis aperçu qu'à chaque fois je jouais des vonves like, et donc finalement j'ai pas besoin de m'emballer. Le perso il vient, et en plus il va venir au fur et à mesure d'être confronté aux événements. Donc, c'est pour ça. Donc, c'est vrai que de plus en plus, je me dis, ouais, le personnage, finalement, il se crée au fur et à mesure, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez de votre côté, mais...
Non, c'est clair.
Moi, je suis assez d'accord. Et je trouve que ça donne une richesse aussi. Je pense que c'est pas forcément productif de graver un personnage dans le marbre avant de commencer à jouer. Je pense qu'il faut se garder, il faut que le MJ aussi soit à l'aise par rapport à ça, garder à ses joueurs une petite latitude de construction pendant le jeu. Peu importe finalement que un joueur à un moment dise bon bah voilà mon personnage, en fait je vous l'ai jamais dit mais il a un peu bossé dans le music hall et je vais vous emmener dans un endroit magique, passer une super soirée. Si ça rajoute du jeu, si ça rajoute de la profondeur, pourquoi pas.
Ouais. Très juste, comme ça, t'as pas verrouillé avant, quoi.
Pas forcément non, tout décrire. C'est très juste.
Alors après, il y a ceux qui adorent aussi les secrets. C'est-à-dire que pour de vrai, j'aime pas machin. Et puis pour de faux, je suis je suis l'amant de celui-là. Et puis je suis la demi-sœur de lui. Alors,
mon Dieu.
Moi j'en ai parfois qui veulent avoir des secrets. Ça dépend.
Ouais.
Ça dépend de mon humeur. Ça peut être fun si le mec amène vraiment ça bien. Genre, il y en a un qui est gangster, et puis l'autre qui joue un agent immobilier, et en réalité il est flic, et il suit le grand gangster. S'il fait pas chier pendant la partie, ça peut être très sympa. Parce que si le joueur est assez subtil pour, je sais pas, lui mettre des bâtons dans les roues, ou faire que à chaque fois il y a la police qui arrive quand il veut faire quelque chose d'un peu sous le manteau et tout. Ah, c'est pas de bol, hein. À chaque fois, d'habitude, quand je suis tout seul, j'y arrive. Et là, à chaque fois, il y a un policier qui passe et le mec à côté, ah bah oui, il a pas de cul, hein. Et le mec il est là, ouais Maurice, c'est bon, t'es passé, c'est super. Donc il faut que ça porte, quoi. Pour moi, on joue pas à vampire.
Ouais, j'allais dire, c'est plus dans une partie de vampire, ce genre de choses.
Voilà. Ouais, pour la alors, il y en a qui aiment ça, et...
Mais s'il y en a qui a un secret, c'est pas forcément quelque chose d'inavouable. Je me souviens qu'à l'époque, je jouais à un professeur de botanique, et c'est un gars qui avait été élevé par un chinois, et c'était un grand maître de kung-fu, mais il l'avait jamais dit à personne. Je trouvais que c'était intéressant comme élément de background.
Voilà, exactement.
Je pense qu'il y a quelque chose à dire aux joueurs par rapport à ça, c'est si quelque chose reste secret, c'est souvent qu'il y a une bonne raison pour le personnage. C'est soit qu'il en a honte, ou bien que ça le gêne, ou...
Ça peut être beaucoup plus sympa, quelque chose dont tu as honte, ouais, tout à fait. Ça
ouais.
Peut être,
en tout cas, il y a toujours une bonne raison pour laquelle cette chose est secrète. Donc, vraiment, mais évitez de révéler, dès la troisième séance, votre terrible secret. Même si c'est marrant, je dis ça. Il faut vraiment essayer de jouer la corde raide jusqu'au dernier moment, le moment où vous ne pouvez plus rien faire d'autre que d'assumer votre secret et éventuellement de vous en servir comme quelque chose de bénéfique. Mais partez vraiment du principe que votre sombre secret et votre... Si vous n'en parlez pas, si vous gardez ça caché, il y a de très bonnes raisons pour ça. Et n'en faites pas simplement une terrible icône plus 7 que vous gardez cachée dans un fourreau et que vous allez dégainer la troisième partie. Oh, et en fait, j'avais une super relique.
Oh. Et en plus, justement, ça peut être quelque chose qui aurait pu. Faut pas que ça soit trop gros, mais ça aurait pu aider la partie avant et vous le révéler que finalement au dernier scénar. Ouais. Alors que ça aurait pu aider avant et que vous vous dites ouais mais je pouvais pas vous le révéler avant, enfin voilà, je suis un ninja et ça peut être très sympa que les autres disent ah putain tu fais chier, puis l'autre ouais, mais en ce cas là vous prenez un air contrit quoi, en tant que joueur voilà, vous faites ouais mais c'est un trop lourd passé quoi. Je pouvais pas vous en parler.
Bah, par exemple, pour l'histoire de l'art martial, le gars vu qu'il était enseignant à l'université de Nice catholique, il trouvait que c'était beaucoup trop débridé.
Débridé, c'est ce que je veux le dire.
Non, mais ça sortait, c'était pas politiquement correct d'avoir ce genre de loisir, et en plus ça lui rappelait une partie de son passé qu'il tentait d'oublier. Donc c'est vraiment la chose que je réservais pour des agressions caractérisées, physiques et mortelles au dernier degré. Je m'en suis jamais servi en fait pendant pas mal d'épisodes d'une campagne. J'ai jamais eu à m'en servir et je trouvais que c'était sympa.
De temps en temps, voilà, j'ai donc...
une petite citation de Sun Tzu, l'air énigmatique, mais je n'en disais pas plus.
Et donc, ce que tu disais, JP, c'est ça rejoint un peu ça, c'est que par exemple, ça peut être aussi des peurs. On joue à la Belle
phobie,
je basé sur les peurs. Et vous pouvez tout à fait partir avec une phobie que vous avez révélée qu'au gardien, et dont il fera bon usage. Justement, il va éviter, comme tu disais Steve, de vous mettre dans la situation phobique dès le premier scénario, sans aucun intérêt. Ouais. Par exemple, sachant que vous êtes agoraphobe, il va s'attendre à ce que vers la fin du scénario, il y ait une bonne étendue bien plane, à perte de vue, bien grande, et qu'il se retrouve tout seul. Vas-y, prends la voiture, on va les rejoindre. Non. Donc, faut que ce soit encore des ressorts scénaristiques, des choses comme ça. Donc, ça peut aussi prendre pour étoffer votre personnage des origines. Il peut, je ne sais pas, être orphelin. Il peut avoir tué quelqu'un de sa famille pour une bonne raison. Hein. Alors, on s'entend.
Un passé criminel.
On va pas pousser au meurtre quand même. Mais ça peut être un truc grave quoi. Ça peut être un truc gore. Il a pu, je sais pas, étouffer sa sœur quand il était petit sans faire exprès quand il était bébé. Depuis, il a une peur des filles. Il veut jamais rester tout seul. Voilà. Il a failli se noyer quand il était plus jeune et depuis,
il a vendu des poulpes et des profonds.
Donc, il faut toujours que ce soit sympa et que ce soit pas le secret. Moi, j'aime pas trop les secrets qui forcément mélangent trop les joueurs. Je suis pas fan.
Peut-être l'appel de Cthulhu, c'est pas le jeu le plus à même de propice pour ça.
Voilà. Alors, ce qui peut être sympa, par contre, c'est enfin si c'est orienté un peu Indiana Jones, vous vous dites il y en a un, son but ça va être retrouver l'idole, l'autre son but ça va être la ramener dans un musée, ça peut être un truc marrant comme ça aussi quoi, à la Indiana Jones. Il y en a un qui se la joue version sa place est dans un musée et puis l'autre
c'est sa collection personnelle.
comme vous, Dr. Jones. Donc, historique, description, c'est fait. On passe aux compétences. Bah oui, parce qu'il faut bien passer aux chiffres. Donc, une première chose assez simple, c'est de lire la liste des compétences, au moins celle où vous avez un score, et de pas hésiter à poser des questions. Parce que même à l'appel de Toulouse, il y a des trucs genre crédit, je me rappelle, il y a toujours les questions. Ou des choses comme ça. Voilà, perspicacité. Ça peut être... Faut pas hésiter à poser des questions. Et alors, moi en tant que joueur, mais alors ça c'est personnel, je déteste que quelqu'un regarde ma fiche. Mais parce que moi de même, je ne vais pas regarder la fiche de l'autre parce que un, j'ai pas envie de savoir ce qu'il fait par ses chiffres, parce que c'est lui qui va me le montrer finalement par ce qu'il va faire. Mmh. Et surtout, inversement, si je dis je suis prof de physique, et si le mec il voit qu'en bricolage j'ai 85%, dès qu'il y aura un truc en bricolage, allez vas-y, bon, va bricole, et c'est toi, et vas-y. Mmh. Non, ça me fait chier au possible. Parce que pour moi, le joueur doit agir dans la situation aussi. Quoi. C'est-à-dire que si la première personne qui arrive devant la porte, c'est le violoniste, qui a quand même des doigts de fée, et qu'il y a le super voleur de la moitié qui tue, mais qu'il a peut-être pas révélé derrière, il va pas dire, vas-y, dégage, c'est moi le voleur. Non, non, on est à l'appel de Toulouse, on joue pas à des vins. Hein. et même à Donge, je faisais comme ça. Mais voilà, le violoniste, il va arriver... Puis s'il pète le truc parce qu'il est trop mauvais, il va dire « Oh, cette serrure m'a l'air difficile. Viens donc, toi. » Mais voilà, vous en sortez avec les honneurs et vous avez bon pété la serrure, mais c'est pas grave, ça le sera plus tard. Donc, pour moi, les compétences, c'est important, mais c'est pas ce qui va vous guider. Et c'est ce que tu mettais aussi de ce que tu mettais, Steve, dans les notes, c'est aussi... il faut qu'elle soit portée par un score. Le minimaxage n'a jamais marché dans n'importe quoi que ce soit. Essayez d'être moyen partout, ça marche pas. Faites péter des putains de scores dans 4-5 compétences où vous êtes vraiment un master. Dans ces cas-là, vous la péterez et les autres joueurs sauront qu'ils peuvent compter sur vous.
Il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir 25% partout et de rater tout le temps, quoi.
Ouais, c'est vraiment quelque chose qu'il faut intégrer dans l'appel de Toulouse. Il faut vraiment faire, enfin, c'est un système qui incite les personnages en danse et la collaboration entre les différents joueurs et leurs personnages pour justement combler les manques des uns et des autres. Donc, comme disent les autres, hein, pétez vos putains de scores à 80-90 dans une ou deux caractéristiques, 75-60 dans quelques autres. Et puis après, si vous avez des compétences anecdotiques du type, je sais pas, jouer de l'harmonica, là, vous pouvez mettre un petit score.
Non, c'est vrai.
Mais vraiment, évitez à tout prix le personnage qui a 30 partout et 60 dans une compétence, parce que ça m'est déjà arrivé en campagne, les gens me demandaient d'arrêter. Parce qu'ils rageaient, ils n'arrivaient à réussir.
Ils n'arrivaient à rien.
Ça vous fait chier. En plus, vous allez vous faire chier en tant que joueur, quoi. Vous allez vous dire, ah putain, j'ai 26, non, bah vas-y, toi t'as plus.
Vous avez non, j'ai 27. De gloire, sauf avec des succès critiques. C'est rageant.
Juste. Voilà. Alors, on a une question de Karian qui est très, très.
Ah, il est très actif, Karian. Où est-ce qu'il en est, parce qu'il n'arrête pas de cracher.
Il y a une très bonne question qui pose, c'est. Une compétence que je n'ai pas, que mon personnage n'a pas, l'investigateur, mais que moi je possède. Il nous pose la question, comment gérer cela? Avez-vous une réponse pour Cardian, mes amis?
Ah oui, qu'il maîtrise en vrai et que son personnage n'a pas.
Voilà.
Ouais, bon.
Bah moi c'est tout simple. Si t'es super fort en histoire, et si ton personnage est mauvais en histoire, si tu me balances des dates à tir à l'arigot, ça va mal faire. Ça va faire vilain. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut, c'est-à-dire que si tu sais pas faire la part entre ton perso et ton joueur, c'est qu'il y a un problème. Alors,
dans jeu de rôle, il y a rôle, hein.
Voilà. Moi, j'ai déjà joué des mecs de la NSA à Delta Green. Je fais de l'informatique. Je suis pas forcément une star en informatique, mais c'est mon métier. Ah ben voilà, c'est comme quand je vais voir un film avec Sandra Bullock dans Track sur Internet, quand elle fait des conneries sur un clavier et que je sais que c'est n'importe quoi, je vais pas me lever et dire « Ah non, 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 s'il vous plaît, là, ouais, projectionniste, ouais, s'il vous plaît, là, on peut remettre, là, parce que elle a tapé deux fois dièse. » Non, bah, pour moi, on est toujours dans le contrat, et le contrat, ton personnage, et c'est ça qui est intéressant, je pense aussi, doit pouvoir s'en détacher. Et ce que nous pose Sophie Kerrigan, qui est intéressant aussi, c'est, et inversement, j'ai pris un personnage qui a une énorme compétence en anthropologie, et moi je suis une biquette. Et ben, c'est à ça que servent les compétences et les scores. Parce que dans ces cas, tu vas dire, ça me dit quelque chose, cette civilisation qui se mange les crottes de nez. Je vais faire un petit G. Et hop, vous faites un G, vous avez 80%, 70%, vous dites au maître, alors ça me disait bien quelque chose, hein. Et là le maître va broder. Donc, alors, pour moi, dans ce sens-là, c'est plus facile à régler parce que tu as un pourcentage. Mmh. Par contre, l'inverse, et je suis le premier à être d'accord, c'est assez difficile, quoi. Quand il y a un type en face de vous qui a un méga score en histoire, mais que le joueur en lui-même n'y connaît rien et qui sort une ineptie sans nom, il faut rester à côté.
Sourire. Rester zen.
Décontracté. Je vais pas te casser la tête maintenant. Hein, comme dirait Nicolas. Non. C'est pas facile. Moi perso, ça me gêne pas parce que quand je suis en jeu, je me planque derrière mon alter ego, donc et puis j'ai pas envie que Von vous sorte, hein, vous voyez la tête qu'il a. Alors que en jeu, je suis toujours hyper sexy, glamour. Donc non. C'est pas facile, et après je dirais que c'est aussi au gardien de pas forcément vous mettre en situation, quoi. C'est-à-dire que si c'est qu'il est autour de la table, il a deux historiens et un mec qui a jamais fait d'histoire. Si vous confronte à des choses historiques, il va essayer de répartir les choses sur les gens qui ont un vrai score, quoi. Ouais. Mais je sais pas ce que vous en pensez. J'ai beaucoup parlé. Allez-y. Je sais pas ce que vous en pensez, vous deux, mais
sur la question des compétences qu'on a en tant que joueur, mais qu'on n'a pas en tant que personnage, je pense comme vous aussi, hein, c'est-à-dire on s'écrase. Par contre, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que le joueur le dise au meneur de jeu et qu'il puisse faire un petit aparté sur des conseils techniques particuliers. Je sais que à ma table, j'ai un joueur qui est archéologue, et de temps en temps, comme ça, je lui fais un petit aparté, dis-moi ça, tu crois que ça existait déjà à l'époque? Et il me fait ouais. Et coup, j'ai immédiatement mon petit référent technique et c'est agréable.
Ouais, en partie,
c'est pas mal.
Ouais.
Non, en dehors de la partie.
Mais pendant la partie.
Non. Pendant la partie, ça m'arrive moins en dehors des parties, mais vraiment pendant la partie, pendant que les autres joueurs sont en train de discuter entre eux, ouais, échafauder un plan, je me penche, d'accord, et je lui demande, dis-moi les Étrusques, machin. Enfin, mais pour un petit brief très rapide, hein, pour un point de détail, moi-même, enfin, ma profession c'est le droit, et parfois quand on jouait à COPS, les gens me regardaient, c'est bon, je fais ouais, vas-y, on y va comme ça. tu peux appeler le, puis ils me regardaient, le procureur. Ouais, le procureur. Alors,
le procureur, lui. Ouais, voilà.
Ouais,
le coroner.
Et, moi, je suis pas
voler la volette, hein, c'est vraiment juste être un point quand un
réalisme
est important.
Ouais, alors si vraiment c'est important, parce que...
Et sinon, t'as l'autre raccourci. Quand le joueur ne connaît pas ce que c'est son personnage, moi ce que j'aime bien faire comme raccourci, c'est... si je suis joueur, je vais regarder le MJ, je lui dis, écoute, je suis une brute en astrophysique, je lui explique pourquoi il se gourre complètement. Ou bien je vais lui balancer une théorie qui contredit la sienne, et puis je m'encombre pas forcément à rentrer dans les détails, ou si je le fais, mais je le fais avec le sourire et je lui sors n'importe quoi. Oui, alors les quasars ont une résonance magnétique inversement proportionnelle à la magnétosphère.
Par contre, ce qui avait été noté qui peut être très sympa, c'est si le joueur ne l'a pas fait, de lui faire un petit briefing papier. Par exemple, tu vois, tu dis, je sais pas, ton aventure va être basée sur les Étrusques, tu lui chopes bêtement l'article. Oui.
Ou tu lui permets de regarder la page Wikipédia pendant que...
Voilà, c'est du bon, donc moi j'ai des
trucs
complètement pourris, mais tu lui balances, tu lui dis, voilà, tiens, je t'ai sorti la page, hop, là, voilà, discrètement, comme ça le mec il va dire, bon attendez, vous me laissez une petite demi-heure, je vais aller potasser ça, je reviens. En plus, le mec pendant ça, il va lire, il va faire, mais c'était hyper intéressant, j'ai fait des trucs, putain la vache.
On apprend des trucs en jouant, hein.
Ah oui,
tu vois, non, mais je suis parfaitement... Je vais dans le même sens que vous pour ça, c'est sûr.
Parce que le Kergan, mais... qui ouais. est sur le talk chat, il est fort en quoi? C'est quoi son taf?
Il dit qu'il est bio-ingénieur.
ça n'existe pas comme profession, c'est pas vrai. On n'est pas à Star Wars, c'est la vraie vie, monsieur.
Voilà. Non, mais il est calé. Il est assez calé en chimie, en bio.
Il fait des aliens donc, c'est vrai qu'il faut avec pas... des morceaux de Jaimor, c'est ça?
Ouais, non, mais il faut pas lui raconter des conneries avec dans son domaine. Mais c'est vrai que...
Mais bon, il arrivait de te corriger,
non,
quand
non,
tu allais
non,
sur un
non,
terrain
non,
comme ça, non?
Non, non.
Parce que alors ça, moi, par contre, en tant que perso, moi, je suis.
Voilà, il a précisé. Il est ingénieur chimiste et des industries agricoles.
Agricole.
Voilà, il est
moi, c'est un mec normal.
Il va me frapper quand je vais le revoir.
Il fait partie des deux écouteurs en ce moment. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire gaffe. Et puis après, parce que moi, par exemple, là, ma nouvelle équipe, au début, je l'aurais pas du tout demandé. Je suis même pas sûr que je sache pour tous. Je sais pas ce qu'ils font. Je sais pas quelle est leur profession.
Fais gaffe, il y en a peut-être un qui est flic. Ouais.
Mais c'est tout.
Ah, mais de toute façon, je parle jamais de mes activités répréhensibles. Non, mais bon, on va continuer parce qu'on a d'autres sujets. Donc, ça, c'était sur la partie compétences. Je pense qu'on a répondu à Kergan. Je pense toujours au Kergan de.
Oui, le Kergan.
Christophe, le Kergan. Donc, maintenant, on va. Exactement. On parlait de l'investigateur. C'était l'investigateur, il investigue. Donc, pardon. Donc, alors, investiguer.
Ramirez.
Ça fait. Non, c'est Juan Villalobos. C'est Juan Villalobos Ramirez.
Ouais, c'est ça.
Pour vous servir. Donc, une des spécificités de la Paléo Toulouse, c'est quand même la partie enquête.
Ouais.
Et donc l'investigation, et là messieurs, je vous laisse parce que les premiers points sont pour vous. Notamment la spécificité du fait des enquêtes et ben, quels conseils on peut donner aux investigateurs à ce niveau-là.
Ouais, alors c'est un truc que j'ai proposé, JP a aussi des choses à dire dessus. C'est vrai que l'appel de Cthulhu, c'est un jeu d'enquête. C'est un jeu qui est propice et qui très souvent fait la part belle à des phases d'enquête. On les aborde pas systématiquement comme dans d'autres jeux, comme dans, je sais pas, Vampire ou AD&D, où il y a aussi parfois une phase d'enquête. On va plutôt parler d'investigation. Quand vous jouez à l'appel de Cthulhu, vous êtes joueur, il faut savoir que les canons de l'enquête sont assez glauques, assez sombres. On est un peu dans l'enquête noire, on est un peu dans, je vais dire dans le Hercule Poirot, mais plein de fumée, avec beaucoup de mystère. Et je pense que c'est bien de le savoir et tout de suite d'intégrer ce ton particulier qu'il y a dans l'enquête. Pourquoi est-ce que l'appel de Cthulhu a créé un peu ce climat d'enquête? Je pense que c'est principalement pour respecter l'œuvre de Lovecraft.
Lovecraft, oui.
Ouais, pour ceux qui lisent les nouvelles, vous verrez que souvent les enquêtes ont vraiment une teneur particulière et même je trouve qu'elles sont vraiment géniales à lire. La manière dont les gens vont faire des recherches, vont interroger des témoins et petit à petit on sent l'horreur qui monte dans leur esprit. C'est assez bon.
Alors, derrière, faut faire attention parce que
c'est que il est important d'enquêter. C'est pas juste une démonstration de respect par rapport à l'œuvre de Lovecraft. C'est très important d'enquêter parce qu'en face, ce qu'il faut savoir dans l'appel de Cthulhu, c'est qu'il y a vraiment souvent une adversité qui est extrêmement importante, extrêmement puissante, voire toute puissante.
Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut mettre toutes les chances de son côté.
Voilà, si vous vous croûtez pendant la phase d'enquête, si vous n'avez pas l'avantage par les informations que vous trouvez, ben, vous mourrez à la fin.
Vous devenez fou.
Ce qui est intéressant, c'est que ce point-là n'est pas forcément décrit dans les règles. Moi, je me souviens de la première édition de l'appel que j'avais. On décrit qu'il faut enquêter, machin, mais on dit, bon, bah, il faut aller au cadastre, il faut aller à la bibliothèque, mais c'est vrai que c'est plus le fait de finalement, à l'appel de Cthulhu, vous allez vous aboutir à une situation qui est inéluctable. C'est-à-dire, vous ne pourrez plus rien faire à ce moment-là, vous serez face à la chose et tout ce que vous avez en tête, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez pu investiguer, toutes les données que vous avez, c'est à ce moment-là qu'ils vous serviront et c'est fini. C'est-à-dire que vous vous dites pas « Ah, attends, je retourne à la bibliothèque, 5 secondes, arrêtez le « Faites à temps mort, là, non, la tuez pas, là, je reviens. » Non, c'est vous avez enquêté, et c'est pour ça que, d'un point de vue joueur, il faut être quand même assez organisé. C'est pas mal de ce que vous avez mis comme point, là. Je vous montre, mais vous voyez pas, là, je vais vous montrer. Dans la feuille, c'est dans la préparation, c'est qu'il faut être organisé. Il faut... je dirais que moi j'avais des joueurs qui étaient comme ça, c'est au bout d'un moment ils avaient une liste à l'appel au Toulouse. Quand ils arrivaient à une enquête, ils avaient une liste de ce qu'il fallait faire pour
faire une checklist.
Ouais. La société d'histoire de la ville, aller voir les archives des journaux, aller voir le cadastre, aller par exemple dans les endroits un peu genre les bars et tout ça pour avoir des informations de première main au niveau des populations. Quand on part sur Delta Green, là, JP, ce que tu nous notais, c'est qu'il faut bien
Oui, j'ai déjà été surpris par les méthodes d'investigation modernes auxquelles j'avais pas pensé. Mm-hmm. Et le joueur me dit, je vais pirater ceci, ou je vais faire une recherche sur Internet sur cela, ou... Et là, ouais, si j'ai... En tant que maître de jeu, si t'as pas prévu le truc, tu te fais avoir. Mais en tant que joueur,
c'est vrai que... Voilà. Donc là, en tant que joueur, parce que là, on parle en tant que joueur. Hein. Là,
en tant que joueur, c'est clair que...
Vous défoncez le gardien, quoi. Voilà. Vous voyez CIS, NCIS, les 20 saisons, et vous arrivez, vous êtes mais chaud bouillant, quoi. Je demande une localisation satellite. Je veux qu'on couvre une zone de 10 mètres carrés, là, 10 km carrés, là. Je veux voir un... Voilà.
Hein, si tu joues à Delta Green et que tu es un agent d'une agence d'espionnage, CIA, FBI ou autre, tu peux quand même tirer les ficelles de certains services pour obtenir certaines informations. Et
quand je dis qu'il faut vraiment défoncer, là on est vraiment du côté du joueur à ce coup-ci. C'est que si vous poussez vraiment votre gardien trop, il va pouvoir lâcher des choses qu'il ne voudrait pas lâcher. Et c'est un peu comme si, dans la vraie vie, vous harceliez le mec qui est censé s'occuper des satellites. Le mec, mais fais-moi une couverture, machin. C'est... Au bout d'un moment, le mec, il va craquer, il va dire, ok, c'est bon, ok. Ouais. Ok, tu vois, il est parti vers le nord. Voilà, lâche-moi, il est parti sur la RN12. Vas-y, dégage. Donc, il ne faut pas hésiter à jouer cette interaction avec le joueur, avec le gardien, et de le forcer dans ses retranchements. Hein. Moi, Delta Green, scénario, ça se prépare. Hein. Mais à Delta Green, je m'étais fait avoir les premières fois. Quoi. J'arrivais, la bouche en cœur et tout. Le mec, il fait « Oui, mais attendez, s'il a son téléphone ouvert, je pourrais savoir la cellule dans laquelle il se trouve. » Oh merde, oh putain.
Merde.
Non, il a appelé d'une cabine téléphonique transportable. Il a un grand câble qui le relie à la maison. Non, donc c'est... En tant que joueur, alors, pour les années 20, c'est plus simple. Parce que c'est quand même,
les moyens de communication sont plus limités.
On trace pas les appels, on peut pas savoir où sont les gens. Hein. Faut bien se rappeler qu'il y a une époque où on savait pas où étaient les gens. Hein.
On savait pas combien de choses.
On savait pas. Le mec, quand vous partiez à l'autre bout du monde, vous partiez pour 2 mois, mais au bout de 2 mois, on savait si vous étiez revenu ou pas. Quoi.
Tout à fait.
Ou alors vous envoyez des télégrammes. Donc après, ça, c'est, il y a des, déjà qu'il y a des, les moyens après, c'est à se renseigner concernant le jeu et aussi concernant l'époque, mais surtout il faut bien penser à mettre toutes les chances de votre côté. Votre but c'est pas d'aider le gardien, c'est pas non plus de le foutre dans la merde tout le temps, mais c'est de le pousser à vous lâcher tout ce qu'il a lu. Et ça peut être par le harcèlement, en pétant des trucs, ou en vous la jouant, connaissant la chose, alors que vous en savez pas plus que le gardien, mais vous dites si. Je pense que les cellules de téléphone portable, c'est 1 km², je pense à peu près. Ouais. M'en fous, on bat les couilles. Si le gardien il sait pas, j'ai mon info, 1 km². Et puis tous les autres autour de la table, ouais, moi aussi. Moi aussi, je vais localiser. C'est un jeu compétitif, hein. Vous êtes 4 contre 1, lui il sait comment ça se termine.
Moi je veux gagner, je le mange.
Bon, voilà, moi j'arrive, c'est pour le fumer. faut mettre tous les trucs de votre côté. Et alors bien sûr, ne pas pousser à l'extrême dans ce qu'on a noté, c'est-à-dire ne pas appeler la police en disant je crois qu'il se passe quelque chose de sombre et d'obscur dans la
maison. Ne jamais appeler la
police. Ça c'est un truc, ne jamais, mais ne pas en fait. Y a souvent le travers des joueurs dans les années 20, du moins des jeunes joueurs, c'est pas forcément une maladresse, mais c'est d'aller s'adresser à la police pour résoudre l'enquête. Non, non, mais il y a quelqu'un qui est mort, et alors il faut y aller, parce que voilà. Alors, la police va se déplacer une fois, deux fois, mais après, bah, elle va les emmener directement au poste, comme ça, ouais. Ils pourront leur dire tout ce qu'ils ont à dire. Hein.
Ça sera fait.
Parce que, bon, ça, c'est peut-être aussi presque un conseil aux gardiens, c'est vous laissez pas déborder quand vos joueurs ramènent les militaires, la police, essayez de trouver des portes de sortie, mais pour les joueurs, ça risque de vous priver aussi du plaisir dans l'enquête. Si c'est une bande de mecs du SWAT qui vont aller buter le profond mutant qui se cache dans l'immeuble de fin, vous n'aurez pas le droit à la super géniale scène à la Seven, à passer entre les portes dans l'immeuble désaffecté et à flinguer vous-même le rejeton immonde. Ne demandez pas à la police ni aux autorités de résoudre l'affaire à votre place, ça serait dommage.
Maintenant, les autorités peuvent être un allié. Hein.
Oui, ou un bâton dans les roues. Chose à utiliser, hein, effectivement.
Il faut voir.
Il ne faut pas les diaboliser, mais il ne faut pas leur demander de faire tout.
Et puis souvent, si votre gardien est un peu rodé, vous inquiétez pas, le corps
il va retomber sur
par terre aura disparu, ou alors le strum, machin... Ou alors le policier vous mettra en cause parce que vous êtes quand même couvert de sang, hein, une dague sacrificielle à la main, et vous êtes le premier à avoir averti la police. C'est un peu louche quand même.
C'est un peu louche. Ouais.
On va vous donner quelque chose à boire. Mettez le pyjama
avec nous. Voilà. Avec les grandes manches. Mettez les grandes manches dans le dos. Donc après on a l'important pour moi, c'est quand même souvent d'être organisé, surtout quand on va jouer en campagne. Et c'est de alors pas tout noter.
Je sais pas si on l'a dit au départ, mais la prise de notes toute bête est importante. Moi, quand je suis joueur, je note tout. Je note beaucoup de choses au fur et à mesure. Et puis je fais des flèches dans tous les sens pour essayer de relier les éléments les uns aux autres. Je fais des théories. Je discute beaucoup avec les autres joueurs. Et là, je vois ce qu'on voit souvent dans les séries, tu vois la carte avec les épingles pour situer les lieux et les trucs comme ça. Et puis tu colles des indices à droite à gauche. Si t'as un meneur de jeu qui a fourni beaucoup d'éléments matériels, les joueurs peuvent s'en servir et avoir une vue un peu plus, un aspect un peu plus visuel de leur enquête.
C'est important.
Et puis ça rajoute aussi, à l'ambiance de la partie. Quoi.
Complètement. Il y a l'étageux, c'est l'enquête dans l'enquête, c'est-à-dire que c'est l'enquête au niveau des joueurs qui vont vraiment agencer leurs indices, leurs pistes, qui vont discuter entre eux, et il y a une équipe qui se joue à table en plus de l'enquête qui se joue au niveau des personnages.
Mais c'est vrai que ça, j'ai jamais fait le coup, du panneau en liège, ça va être assez sympa. Ouais.
T'as jamais fait ça? Non. C'est sûr, c'est excellent. Franchement, c'est super bon. Et tu leur files des punaises de différentes couleurs, tu vas voir,
ils vont prendre leurs pieds.
C'est plus en campagne quand même ça.
Oui, c'est vrai. Ou bien sur des scénarios one shot où il y a beaucoup de monde, où il y a une grosse distribution, beaucoup de lieux.
Par exemple, le scénario des maîtres indicibles à la grande chasse. C'est clairement un scénario où j'aurais bien vu l'utilisation chez les joueurs de ce genre de choses, parce qu'il y a beaucoup de personnages, beaucoup de lieux, et il faut recroiser les lieux et les personnages, tout à fait. J'ai jamais tenté ça, mais...
Il a un titre bizarre.
Les maîtres indicibles ? Il est con. Mais oui, c'est vrai. Moi, je l'ai fait remarquer sur le stock que c'est des tout pourris. Unseen Masters. Les maîtres indicibles.
Et puis, mais il y a un truc qui me semblait important, cette fois-ci c'est plutôt pour les jeunes joueurs. Moi, la première fois que j'ai joué à Cthulhu, je me suis fait défoncer la gueule parce que le MJ ne m'a pas expliqué, ni d'ailleurs aux joueurs qui avaient à côté de moi, les endroits dans lesquels on pouvait trouver des indices. Alors, on est venu, d'ailleurs c'était le scénario de l'écran de la troisième aide, je crois. On s'est déplacé sur place, et puis finalement il y a une apparition d'Azathoth, c'était absolument abominable, on est tous morts. Et après il nous a regardé en nous disant, vous êtes pas allé au cadastre, vous avez pas parlé aux témoins, aux voisins, vous êtes pas allé à la télévision. Mais on pouvait y aller. C'était marqué là dans mon scénar. Je me dis, attends, mais moi j'ai joué à Warhammer toute ma vie, il y a Cyberpunk, je sais pas que ça change.
On allait à l'auberge.
J'aimerais qu'on évoque un peu les lieux, disons les grands lieux dans lesquels d'habitude il se passe des choses. Je vais commencer, déjà les journaux locaux, là où vous faites votre enquête.
les sociétés d'histoire,
les gens qui habitent à côté, les sociétés d'histoire,
les clubs proches, à l'époque, il y a beaucoup de clubs.
Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de clubs.
Le
cadastre, si vous avez enquêté sur des lieux, les archives municipales dans lesquelles on trouve à boire et à manger, et aussi des fonctionnaires bavards.
La bibliothèque corruptible.
La bibliothèque, ouais, bibliothèque locale dans laquelle on trouve plein de trucs. Et d'ailleurs, les bibliothécaires sont parfois des sources de renseignements.
Les églises,
ouais, si vous avez besoin de consulter
la famille.
De naissance, parce que les registres de naissance aux États-Unis ne se conservaient pas dans les mairies, mais dans les églises. Le notaire de famille, si vous avez besoin d'accéder à des testaments ou des donations, des choses comme ça.
Parce que on n'y pense pas, mais c'est souvent une personne qu'on croise au début des scénars, genre votre vieille tante vous lègue une maison. Ouais, et on oublie de poser les questions que demande au notaire.
Maintenant, tous ces lieux-là qui sont visitables pour trouver des indices, je veux dire, c'est au maître de jeu, aux gardiens, de les introduire petit à petit dans le scénario, de les suggérer.
Je ferais autrement, JP, que ton idée. À la limite, je leur donnerais, pour les premiers, parce que c'est une bonne idée ce que tu dis, Steve, c'est, je leur filerais la liste. Plutôt de les faire intervenir dans l'ordre, et puis hop, ils vont dire, le maître, il nous a présenté un nouveau lieu, il va falloir aller trouver l'aide de jeu qu'il y a dedans. Tu leur dis au début, petite ville de Newtown, à Newtown, vous avez, les différents lieux.
Ah, d'accord, tu présentes une carte.
En plus, où ça peut être, exactement. J'y pensais pas, mais tout à fait, ça peut être un truc à la con comme ça. Ou alors tu leur dis, vous arrivez dans le centre-ville, et là, vous avez, des flèches directionnelles, et là, carrément, tu leur fais une fausse flèche directionnelle, et tu leur dis, voilà ce qu'il y a devant, il y a cadastre, il y a machin, les archives de Newtown Express, il y a...
Ça évite les blocages, finalement, t'as raison.
Voilà, et puis tu leur files tout, comme ça, quand même, tu les as quand même bien guidés. Et c'est vrai que ça répond à ce que tu dis, Steve. C'est d'ailleurs le coup du « Ah, mais vous n'avez pas pensé au cadastre, vous êtes trop con. » Et finalement, ils vont aller piocher dedans. Peut-être qu'ils vont la faire en entier, c'est pas grave. Mais au moins, ils auront une liste au début de se dire les lieux auxquels je peux accéder. Et puis voilà, et puis à la limite, tu les tries par accès public, accès privé. En plus, t'es pas obligé de toujours tout faire, parce que tu peux dire que la bibliothèque en réfection, tu peux dire que c'est fermé pendant la semaine machin.
Tu peux jouer dessus.
C'est des fonctionnaires.
Ces méthodes d'investigation, elles s'apprennent au fur et à mesure des parties aussi.
Ça fait partie du. C'est une très bonne idée de conduire d'aider le joueur au début. Moi, j'aurais bien aimé,
Surtout pour les débutants, c'est clair.
Ouais. Toujours à l'adresse des débutants. Derrière les lieux classiques pour les investigations qu'on vient de citer, il y en a d'autres. Il y a aussi des techniques d'investigation que souvent, et très 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 souvent, les joueurs négligent, alors qu'elles sont source de mine d'informations. Je pense par exemple aux filatures. Si vous avez quelqu'un de suspect ou quelqu'un dont vous voulez vous assurer de la bonne foi, n'hésitez pas à organiser des filatures. Les planques aussi, c'est la même version, mais par rapport à des endroits. Très 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 souvent, ça porte ses fruits. Alors il faut quand même avoir un petit peu de suite dans les idées. Pas se décourager. L'idéal, c'est de faire 24 heures, parce qu'il se passe toujours des choses la nuit et le jour. On a toujours deux vies. Je pense à quelques grands méchants que je ne citerai pas. Il y a aussi un truc que je rencontre, mais cette fois-ci un peu plus avec des joueurs qui sont un peu plus bourrins ou qui ont un peu plus de bouteilles, les sources d'investigation, comment aller trop loin. Est-ce qu'on peut aller trop loin?
J'en parlais avec un collègue et joueur. Il me dit, tu joues à Delta Green, tu es agent de la CIA, forcément, tu as une formation pour les interrogatoires musclés et ce genre de choses, quoi. Donc là, ça peut aller dans le ton, même si on n'est pas non plus là pour, il faut pas non plus
je dirais que attention, le jeu de rôle peut être aussi un exutoire, séance de torture où je vais tabasser un mec.
il faut voir avec quel joueur tu, avec quel,
voilà, exactement, avec
participants, c'est clair.
Avec qui tu peux revenir dans la pièce, mais là où il y a les autres joueurs version Doberman avec les points plein de sang.
Il a parlé, le mec.
Il aura plus rien à nous dire.
Voilà. Je pense que c'est une source d'information, je ne vais pas dire comme les autres, mais c'est une source d'information de dernière limite.
Mmh. Il faut que ça soit dans le ton aussi.
Il y a un scénario officiel dans lequel on suggérait de faire ça, et comme tu dis, il faut que ça soit dans le ton. Je pense que, enfin, moi j'avais obtenu un excellent résultat à l'époque. Il y a des gens qui avaient décidé de torturer un fonctionnaire à Shanghai. Ils l'ont emmené dans un espèce de petit, dans une petite masure à l'extérieur de.
Et ils lui ont glissé des cure-dents sous des ongles.
Et ils l'ont torturé. Mais en fait, il y en avait un, enfin il y en avait deux qui voulaient vraiment le torturer, et les autres attendaient que ça se termine. Et en fait, on a vraiment rendu ça très très lourd. Il y avait vraiment une.
Ça, tu fais faire des jets de santé mentale à ceux qui n'ont pas voulu le torturer.
J'allais dire pour ça.
À tout le monde, à la fois à ceux qui ne réagissaient pas et à la fois à ceux qui faisaient, mais sans leur dire.
Parce que ce genre.
C'est arrête.
Je considérais qui révélaient leur perte de santé mentale en faisant ça. Ça veut dire qu'ils avaient déjà perdu
d'humanité par rapport à ça, quoi.
Voilà.
Allez, ça peut tout à fait intervenir. Ça peut tout à fait intervenir en fin de campagne. Moi, j'ai des joueurs au bout d'un moment si t'as traversé les masques et si t'arrives vers les derniers scénars, tu peux être inquiet, quoi. Le mec il veut pas te parler, c'est bon, il va dérouiller sa mère, quoi. T'as dérouillé, t'as vu des morts, machin, t'as tes potes qui sont fait tuer. L'autre il fait non, ne peut pas te parler. Ouais, non, mais attends, bouge pas. Pouah, allez, on recommence. T'as pas compris ma question. Ouais. Ouais, il faut le jouer comme ça. Quelqu'un qui est dosé, même s'il est calme, au bout de 50 heures à se faire plomber le cul, au bout d'un moment, il va péter un câble.
Rendre ça particulièrement désagréable pour les joueurs quand leurs personnages ont beaucoup de santé mentale, et puis y aller un petit peu plus franco et un petit peu plus avec moins d'horreur lorsqu'ils se rapprochent du zéro fatidique. Pour refléter tout simplement l'impact que ça peut avoir sur leur personnage. Je sais que dans la séance de torture dont on parle, il y avait des joueurs fraîchement, enfin des personnages fraîchement arrivés, ils ont sacrément dérouillé en matière de santé mentale. Ils ont entendu le gars hurler, je leur ai fait cauchemarder les cris du mec plus tard. Il y avait vraiment une sale ambiance dans le groupe entre ceux qui avaient.
C'est bon, ça. Tu te réveilles en sueur et tout.
Avec le gars qui toque à ta porte, dis-moi, tu sais où j'ai rangé mon couteau?
tu croises son fils plus tard dans une échoppe, tu sais. Vous t'avez pas vu mon père, hein? Il était venu avec vous, je crois.
Oh, lui chercher quel morceau. Mais
pourquoi il boite, hein? Pourquoi il boite, papa? Par contre, ça révèle un truc qu'on a oublié de mettre et auquel j'avais pensé. C'est en tant que joueur, gérer l'échec. C'est-à-dire
on l'avait noté, on l'a pas abordé.
Et je sais plus, voilà. Parce que comme on est un peu à investiguer tout ça, le fait d'avoir soit raté un G, soit avoir fait un G, et puis le maître vous balance une bastos, de la nourriture pour chien, il y a beaucoup de joueurs qui s'arrêtent, qui disent « Ah, oh, merde, j'ai raté mon G. Ah, c'est con. » Mais non, surtout pas. Vous arrêtez pas. C'est-à-dire que, au plus simple, vous retentez. Vous dites, bon, attendez, je retournerai à la bibliothèque demain, je suis persuadé que j'ai raté quelque chose. Bon, voilà, point barre. Si le maître, il vous dit, non, t'as rien raté, c'est un mauvais maître. Parce que moi, je l'aurais fait durer. Et puis deux, vous pouvez quand même avoir l'option. Et puis, il y a toujours la possibilité d'attaquer par un autre,
attaquer la situation par un autre angle.
Ou alors envoyer quelqu'un d'autre.
Tu peux donner des informations, mais fausses, ou alors des informations lacunaires.
Voilà.
Ça peut être pas mal.
Et puis dire non, vous m'avez fait une recherche, je vous parlerai plus, et puis finalement envoyer quelqu'un d'autre de l'équipe aller voir la bibliothécaire qui va dire non, moi je pense que je suis personnel non grata, elle voudra plus me voir. Par contre toi vas-y, elle te connaît pas, tu rentres pas avec moi, c'est bon. Il faut et puis ça marche pour toutes les actions, ça marche vous essayez de crocheter une porte, vous faites un essai, ah merde ça a raté, le deuxième essai, comme vous êtes un peu stressé, on vous met un petit malus de -10%. Et puis la troisième fois vous avez plus de chances de faire péter le truc, mais ça veut pas dire que quand vous avez raté une action. Bon, bien sûr, quand vous faites une cascade ou un truc à la con, si vous l'avez raté, bon là, ça se verra. Vous pouvez pas la retenter tout de suite. Mais voilà, vous allumez un bâton de dynamite, il s'allume pas. Ça veut pas dire qu'à chaque fois que vous allez maintenant le faire, ça va pas marcher. Vous retentez le truc juste après, ça va peut-être. Donc ça, il y a beaucoup de gens. Alors c'est peut-être moi qui insuffle mal la chose, mais faut pas hésiter à retenter. Et puis surtout, il faut se dire qu'en jeu de rôle, l'intérêt, c'est que comme on est dans un monde imaginaire, l'échec. Peut-être
signe de générateur de
pouvoir. Voilà. Ouais.
C'est aussi ce que dit Kergan sur le chat et je rejoins là-dessus.
Il est très actif. Hein.
ça peut vraiment être un plaisir de jouer un échec, ça peut vraiment être jouissif. Plutôt que de prendre le parti bougon du « Oh, hein, j'en ai marre, je rate tous mes jets ce soir », non, mais essayez de retourner la situation et vous dire « Voilà, mon personnage a planté son truc, mais je vais jouer cet échec et je vais l'interpréter ou je vais rebondir là-dessus. »
Je me souviens de certains accès de folie que j'ai joué.
Je vais passer la main à un autre joueur et lui va rebondir et va faire quelque chose et ça donne du jeu. Ouais, le JP.
Ouais, je dis genre échec à la santé mentale, ça peut parfois donner des chouettes résultats en tant que roleplay, parce que bon, moi j'ai déjà joué mon perso qui devenait fou, qui avait un accès de folie, ouais, c'est très drôle, et la manière dont les autres joueurs réagissent par rapport à ça, ils savent plus quoi, comment réagir, ils essaient de canaliser le perso qui part en vrille, c'est vraiment
pas mal. Et puis pour les jets en eux-mêmes, c'est, je me rappelle une partie où j'étais le mouton noir, quoi. C'est-à-dire que dès que je chantais un truc, ça merdait. Donc dès que je me rapprochais un truc, on gère. Et putain, et j'avais que les trucs sympas à faire. Parce que dès qu'il y avait un truc compliqué, on disait non, vas-y, reste, on t'appellera. Je vais crocheter là. Non, on va la défoncer, la porte, laisse tomber. Attendez, je vais défoncer. Non, donc voilà. Il faut pas avoir peur de l'échec. Et, faut dire.
Tu vois, Kergan intervient en me disant qu'il a fallu me désarmer et m'attacher.
Ah ouais, mais attention, la folie, j'ai pas trop rebondi parce qu'on va en parler juste un petit peu après. C'est dans quoi jouer la folie, on l'a mis pour le joueur. Donc là, bon, on fait un passage rapide sur l'action. Mais qu'est-ce qu'on a mis sur l'action? C'est qu'il faut toujours garder la fuite comme étant une option.
Oui, et ça, les joueurs ont parfois du mal à accepter que la fuite est l'option.
On va revenir dessus quand on va parler du joueur et ce qui motive un joueur à venir jouer à une table, si c'est la réussite ou pas. Mais il faut savoir que dans l'instinct et dans les canons de l'appel au Cthulhu, fuir, c'est parfois même c'est assez salvateur.
Très clair.
Faut pas se cacher ça. Et point de vue.
Des fois, pour mieux revenir ensuite.
Voilà, exactement. Ça veut pas dire quand on disait l'échec. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour pour l'investigateur, pour donner des idées. Donc on va passer, parce qu'il est quand même déjà assez tard, on va passer au joueur. Donc voilà, finalement c'est assez rapide parce qu'on a fait des listes. Mais quand on s'assoit autour d'une table, sauf si c'est franchement par hasard, vous essayez, c'est un jeu de rôle, génial, bonjour. Non, la plupart du temps, vous savez que vous allez jouer à un jeu de rôle, si on vous a demandé d'amener vos dés, et puis des feuilles de papier et des crayons. Mais disons que j'étais assez catégorique au début quand j'ai préparé et vous aviez pas tort tous les deux de rajouter des subtilités. En réalité, c'est plutôt une combinaison de souhaits, d'aspirations. Donc on en a fait une petite liste. On va les prendre un peu chacun notre tour. Donc moi j'avais comme première item de la liste le fait de vouloir gagner. Il y a des gens qui viennent pour résoudre le scénar. Suivant. Allez-y dans la liste. Donc, vous voyez, c'est absolument pas préparé.
Non,
là,
c'est absolument pas
préparé. Souvent,
c'est joué.
Il y a ceux qui viennent pour... Vas-y, JP.
Dans le jeu de rôle, il y a jeu. Voilà. Donc, on vient pour s'amuser et pour jouer.
Pour s'amuser. Important.
Le suivant. Si on s'emmerde...
ne rien rater du scénario. Ouais, ça, c'est les joueurs qui adorent exploiter la moindre piste du scénario qui seront frustrés s'ils n'ont pas demandé à la petite vieille si elle avait retrouvé son chat finalement.
Eh ben, ça peut arriver. Moi j'ai des gens qui m'ont demandé, mais on a fait combien du scénario?
Combien?
Ça peut arriver.
Ouais, c'est le genre de joueurs, un jeu vidéo, ils vont recommencer 10 fois le jeu vidéo pour explorer toutes les pistes.
Soulever les poubelles. Donc le suivant, le plaisir de triompher.
Des challenges.
Je tombe sur la question.
T'es pas tombé sur le narratif.
C'est assez proche du plaisir de jouer. C'est le plaisir de triompher les challenges posés par le jeu. En fait, c'est le délire des gens qui sont plutôt ludistes. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des implications ludiques dans la partie, par exemple, vous avez 15 minutes.
C'est la merde à décrire, c'est la merde.
Vous avez 15 minutes pour délivrer la jeune fille qui est sur le toit, ou bien pour désamorcer la bombe qu'il y a dans la cave. Et ben, c'est le délire des nudistes, ça va être de trouver un moyen de résoudre les deux problèmes dans le temps imparti, tout en contournant les obstacles posés par le MJ. Voilà, ça c'est un exemple.
D'accord.
Donc, suivant.
Ah voilà, je suis tombé sur le narrativisme, hein, c'est malin. Le plaisir de construire des histoires riches, profondes et intéressantes. Oui, mais j'aime bien. Oui. Oui, c'est le personnage, c'est le joueur qui va avoir son personnage, je sais pas, très complet, très décrit, avec.
C'est le joueur qui vient pas forcément pour jouer à plusieurs, mais qui vient plutôt pour frimer, quoi.
Ouais, peut-être peut-être un peu trop pour raconter.
Non, là je crois qu'on est un peu hors propos, parce que le narrativisme, enfin du moins comme moi je le comprends, c'est plutôt le fait de raconter une belle histoire à plusieurs. Je dirais plutôt que le personnage et le joueur s'effacent devant la qualité de l'histoire qui est racontée pour tous. Par exemple, un mec qui est vraiment qui est vraiment sensible au côté narrativiste d'une partie, il va pas hésiter à mourir si sa mort a un sens dans l'histoire. Si sa mort donne
un
terme dramatique.
Ouais. Le mec relou. Si c'est ça, je me sacrifie.
Je mourir.
Adieu.
Voilà. Abandonnez-moi, maître Luc.
Je comprends ce que tu veux dire. Je dirais que après ta réflexion sur la torture et du fait de jouer à l'appel de Cthulhu, est-ce que à l'appel de Cthulhu participer, je suis pas sûr que ça s'applique à des jeux un peu simplistes comme moi je les aime, genre Anton, je l'appelle et tout ça. Parce que l'appel de Cthulhu, le but un peu fondamental, l'histoire sera entre guillemets belle si on s'en sort.
Pas forcément.
Bah non, elle sera bien aussi, même si on meurt tous.
Si vous mourrez tous. Si vous mourrez
tous. Ou qu'on termine tous à l'asile.
Quel intérêt de mourir tous?
Bah imagine-toi, il y a une nana qui est dans un asile. Cette nana est condamnée à être emportée par, je sais pas moi, un chien de Tindalos, un truc comme ça. Mais vous vous rendez compte, enfin les investigateurs se rendent compte au bout d'un moment qu'ils doivent participer à un rituel extrêmement dangereux pour sauver son âme, la pauvre jeune fille innocente. Et ils le font, et jusqu'au moment où ils réalisent qu'ils ne peuvent que mourir. Et là, ils se regardent tous, et allez, on se sacrifie dans ce rituel terrible. Et ils sont tous morts, abandonnés, absorbés par le néant, et puis on peut se quitter sur une dernière scène.
Les
yeux et sort
c'est
de
pas
la
mal
vie,
ça. C'est
ça,
bien.
Ça donnera une superbe histoire à Cthulhu qui satisfait.
Ouais, mais c'est pas du choix des joueurs. Là, tu les as guidés sur cette piste-là.
Non, parce qu'ils pouvaient décider de pas sacrifier. Hein.
Ils ont réellement un choix. Il y a un enjeu. Ils pouvaient très, comme dit JP, ils pouvaient très bien dire, j'ai l'air
d'acheter
cette
pétasse.
Je prends le livre et je m'en vais, quoi. Je vais le revendre.
J'ai l'air con comme ça, mais j'écoute. Et dans ce que tu as présenté, tu as dit, ils commencent à faire un rituel, et au cours du rituel, ils s'aperçoivent que ça les mène au sacrifice. C'est différent de se dire,
si ils poursuivent le rituel
dès le début, si c'est marqué, et vous allez mourir à la fin, pour moi, c'est complètement con. Enfin,
j'ai déjà joué.
À moins que ce soit pour sauver l'humanité.
Non, ce que je veux dire, par exemple, ils doivent s'ouvrir les veines pour achever le rituel. Tu vois.
Mon Dieu.
Là, il y a un moment narrativiste.
Moi, je leur ferais faire un jet de santé mentale, et puis s'ils réussissent pas, le mec, il se barre avec sa lame de rasoir, et puis voilà, tiens.
Mais toi, t'es un MJ simulationniste, c'est pour ça.
Moi, je suis bonveniste. J'ai bon visite. Et je vous emmerde. Non! Je suis d'accord, mais ça c'est des jeux à la L5A où il y a une sorte de code d'honneur et tout. Moi j'ai jamais vu une table avec tout le monde autour de la table et se disant sacrifions-nous tous. Si ça peut arriver quand c'est vraiment genre l'humanité. Et dans ces cas-là, souvent il y en a un qui pète un câble qui dit c'est bon, je me jette sur le portail avec la dynamite et les deux autres font on t'accompagne, on est à poil aussi. Et ça part plutôt en cacahuète que genre.
C'est pas forcément une sorte de sacrifice, tu vois. Tu peux raconter une super histoire sans qu'il y ait un sacrifice. Je sais pas, moi, tu peux, par exemple, enfin, un couple, des amoureux maudits. Vas-y, JP.
Ouais, non, mais pour aller là, dans cette direction-là, je savais que mon perso allait risquer la folie, et j'ai quand même risqué le coup. Et bon, il est devenu fou, momentanément, mais il est devenu fou. Et ça a été un bon
moment pour l'histoire. Mais c'est à partir du moment où tu t'assois autour de la table et tu fais du Cthulhu, il y a des chances que tu deviennes fou.
Oui, par exemple.
Non, tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'est du pipeau pour essayer de masquer un faux truc en se disant voilà, je porte le jeu à un autre niveau pour moi. Parce que je veux dire, voilà, c'est moi j'ai des joueurs qui ont sacrifié les masques de Nénatotep au troisième scénario parce que ils avaient aucun moyen d'avoir le grand prêtre à distance. Il y en a un qui s'est jeté dans la mêlée avec de la dynamite. On s'est pas dit oh, quel acte de narrativisme, il a fait une histoire.
Non,
il a fait un truc à la con, ça fait marrer tout le monde, il s'est jeté.
Tu présentes ça comme quelque chose de grandiloquent, mais on peut faire du narrativisme sans le savoir, tu vois. Et le fait de faire quelque chose qui n'a pas forcément de sens pour la survie de son personnage, mais qui a du sens pour l'histoire. En soi, c'est du narrativisme,
ouais, mais
ça peut faire plaisir aux gens.
C'est quelque chose qui se fait en groupe. Parce que tu vois, tu dis, on raconte une histoire. Et pour moi, dans ces cas-là, il faut que tout le monde se soit mis d'accord autour de la table en disant, bon...
Ah, des fois, ça vient sans personne n'en parle. Hein.
Ouais, voilà, ça vient comme ça. Il y a des moments narrativistes, et puis il y a des moments ludistes, et puis... Voilà.
Ben, des narrativistes, si tu les as pendant les masques de Nératotep ou pendant les trucs comme ça, si tu fonces au premier scénar, t'as l'air con. Ah, sacrifie sur nous. Ah non, les mecs, vous êtes lourds. Deuxième scénar, sacrifie sur nous. Arrêtez de vous sacrifier.
On va changer la définition. Narrativiste égale gens qui se sacrifient.
D'accord.
Voilà. Alors, on passe à la suite qui est le plaisir de... Ah non, pardon. Le plaisir de m'immerger dans un contexte crédible par rapport au canon du jeu.
Il y a ça quelque part. Ah oui.
C'est Steve qui a mis ça.
Ouais, mais parce que j'essaie de donner des définitions que personne ne pratique.
Je comprends.
Non, c'est...
Excellent. Très très bon. C'est pas mal.
C'est vrai. Mais c'est pour ça qu'on les répète, on les martèle.
Voilà, d'immerger dans... Attends. Alors là, d'immerger dans un contexte crédible par rapport... D'accord.
Voilà, donc les canons, les canons du jeu sont un peu, disons, les thématiques ou les grands axes, comment dire, de présentation du jeu. Par exemple, Toulouse, c'est un jeu qui se veut assez réaliste, c'est-à-dire que une balle, c'est un mort. Une hémorragie, c'est un mort proche, les gens deviennent fous. Donc réaliste dans la gestion, disons, de la physique du jeu. Par contre, il y a une certaine dose d'occulte et de quelque chose de très sombre. Et on peut rester réaliste dans les canons de Cthulhu, tout en faisant apparaître des grands anciens qui sortent de dimensions non euclidiennes. Alors que,
tout à fait d'accord.
On est d'accord, ce n'est pas une forme de réalisme. Ouais. Qui est propre à notre au monde réel, quoi. Et
d'accord.
Il faut que ça soit crédible par rapport au canon du jeu. C'est-à-dire que quand on joue à Cthulhu, là je viens d'en parler, mais quand on joue par exemple à Star Wars, les canons du jeu, c'est la force existe, le monde est manichéen, il y a les gens qui sont...
Il y a les gentils, les méchants...
Il y a les gens qui sont profondément bons, il y a des neutres. Et derrière, il y a un certain nombre de choses qu'on explore, comme par exemple le fait de pouvoir piloter des vaisseaux, des pods, etc. Enfin, tout ça, c'est...
D'accord. Si finalement tu veux l'expérience, c'est finalement de se déconnecter d'un monde pour rentrer dans un autre qui en lui-même est cohérent avec ses règles.
Ouais. Et en participant dans la fiction à ce qu'on trouve jouissif dans le monde. Par exemple, si on veut jouer un jeu de rôle Indiana Jones, un des canons que les gens vont aimer explorer, c'est par exemple se battre contre des méchants nazis, ou bien courir sur des trains, ou bien avoir une expérience métaphysique en rapport avec la religion catholique.
Bientôt un nouveau parrain, hein, d'ailleurs.
Le dernier.
Tu crois?
Pierre le Romain. Ah non, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est les prophéties. Voilà, donc ça c'est le simulationnisme, c'est le fait d'explorer des canons du jeu.
Ça se rapproche un peu de ce que j'avais ajouté, vivre une aventure lovecraftienne.
C'est ça, exactement.
C'est les canons du jeu, quoi. C'est vivre, vivre une histoire qui est construite selon les principes de Lovecraft, qui sont mis en avant dans ces romans.
C'est vrai que s'immerger dans un monde purement Lovecraftien, ça veut dire potentiellement se sortir du scénario sans avoir tout compris.
Ça m'est déjà arrivé en tant que joueur d'arriver à la fin d'un scénario et de pas avoir tout capté.
Donc le suivant, c'était le plaisir de ressentir des émotions peu habituelles à travers les aventures de mon personnage. Bah ça, c'est je dirais que c'est une base. Parce que voilà.
Ressentir la peur.
Voilà, des choses. Et des choses qu'on. C'est vraiment des choses qu'on ne peut pas, on peut pas pressentir. Enfin, des choses qu'on ne sentira peut-être jamais. Je sais pas, me confronter à un cadavre qui me tombe dessus, je préférerais pas. mais voilà, on va se mettre dans une situation où finalement on va réagir comme si, hein, c'est le principe de base, comme si on était confronté à un cadavre et tout ça. Et c'est vrai que c'est un des trucs les plus éclatants. Et puis c'est immersif de ce genre de choses. Puis même on est confronté à des victoires phénoménales. Parce qu'on pense toujours aux trucs horribles, mais par exemple sauver l'humanité. Pour moi dans mon boulot actuellement, c'est pas ce que je fais tous les jours. Quoi.
Tous les jours.
Mais bon, ah bah oui, mais toi, oui, forcément, tu travailles pour la NASA belge. C'est... Toi, c'est vers l'infini et au-delà. Donc, voilà. Donc là, c'était. On a bien sûr aussi alors les plaisirs de base. Hein.
Ah oui.
Les champagnes et les nanas, pardon. Ouais, voilà. Ouais. Se retrouver avec des potes
qui...
ou.
Ouais, il y a des joueurs qui apprécient vachement, je dirais, aussi pour ça. Enfin, c'est toujours un panachage de tout ce qu'on a dit. Hein. C'est jamais voilà. Juste pour alors, une chose. Hein,
En plus, faut voir que ça peut être se retrouver avec des potes. Et moi, un des plaisirs aussi, je trouve, c'est de découvrir de nouvelles personnes. Parce que j'adore me mettre un peu en difficulté en créant des nouvelles équipes ou quoi que ce soit, et de me dire voilà, tiens, hop, ben voilà, je vais brasser un peu, on va voir des gens, on va voir d'autres façons de jouer, ça va être vraiment intéressant. Et puis surtout en étant joueur. Là, on parle pas du tout en tant que MJ, mais en étant joueur, se dire je vais être confronté à d'autres personnes. Et l'intérêt, c'est qu'autant en tant que gardien, je vais être tout seul par rapport à eux, donc on va peut-être pas créer un lien particulier. Autant quand je suis joueur, bah on est potes un peu dans la partie, quoi. Enfin, ça dépend du jeu, mais on va être potes. Donc on n'a pas besoin d'être potes dans la vie, mais sur la partie pendant 4 heures,
on va faire équipe.
Je vais tuer un mec pour le sauver lui, quoi. Alors le mec, il y a 10 minutes, je le connaissais pas. Je voulais lui sauver
c'est
la vie.
Lien, ouais.
Ouais, le plus drôle après, c'est qu'on en parle. En disant,
ouais, tu te souviens que je t'ai sauvé la vie?
C'est un grand
c'est ça, quoi. Il voulait me des sacs.
Il y a deux heures, vous connaissiez pas le mec, et maintenant vous voulez lui sauver la vie. C'est excellent, je trouve.
C'est
donc, il y a quoi? Il y a le plaisir de me cultiver, ce dont on parlait.
Mm-hmm. Ouais. C'est propre à Toulouse aussi, hein.
Oui, ouais, ça.
Comme il y a un parallélisme entre le background de Toulouse et notre monde quotidien,
réel,
c'est vrai que l'histoire,
voilà.
L'histoire de Cthulhu est en grande partie notre histoire aussi. Et on apprend beaucoup de choses, c'est ce que tu disais avec ta sœur qui est historienne. Hein. C'est un plaisir. Hein.
Ouais.
On est obligé de savoir, enfin on n'est pas obligé de tout savoir, mais on est obligé de savoir.
On va essayer de voilà, proposer pas quelque chose de crédible, donc faire des recherches et... Soit en tant que joueur ou en tant que MJ, quoi, ouais, c'est sûr.
Alors après, on peut aller dans un autre stade. On revient un peu sur les trucs un peu philosophiques, mais vivre une expérience. Par exemple, moi, j'ai joué un scénario pendant l'occupation, pendant la Seconde Guerre mondiale, où on nous donnait les tickets de rationnement, où il fallait se cacher tout le temps. C'est une expérience. Je dis pas que ça a changé ma vie et que maintenant je fais toutes les manifs, tout ça. Non, mais ça va un peu plus loin. On n'est pas obligé d'être confronté à des trucs horribles. Mais déjà, on peut être confronté à des trucs horribles. Mais voilà, ça te fait réfléchir. Tu te dis, ah putain, c'était compliqué de vivre à cette époque-là. Bêtement, parce que le gardien, il va te dire, pour trouver de la bouffe, il faut que tous les matins vous alliez là. Il n'y a pas besoin d'être super réaliste, mais il suffit d'être chiant. Il suffit que le gardien soit chiant pour dire, putain, à l'époque, ça devait être chiant.
C'est clair.
Donc là, moi, c'est une expérience, mais quand tu disais dimension philosophique, ça peut aller au-delà, ça peut être... Parce que souvent, on démantèle d'une secte, mais genre, ils sont tous à poil et ils ont du sang partout. Mais ça peut être une secte tout à fait honorable, dans laquelle il y a des familles, des enfants. On peut faire un truc à notre époque. Et de se dire, voilà, est-ce que tuer le grand prêtre et briser cette espèce d'équilibre où des gens se reposent sur un grand maître pour finalement peut-être échapper à une vie quotidienne? Est-ce que je me sens en droit de briser tout ça ou bon, c'est des cas extrêmes.
Ce qui peut être amusant, c'est de mettre les joueurs face à des dilemmes moraux et de voir comment ils vont s'en dépatouiller. Et surtout quand j'ai déjà eu ça en tant que joueur, un des PJ voulait buter un PNJ et mon personnage s'y opposait formellement. Donc du coup, tu te retrouves avec une opposition entre personnages. Et voir comment ça se gère, ça peut être intéressant aussi.
Ça s'est défini comment?
Je crois qu'il a quand même buté le mec.
Ouais, non, je le buterai pas, vas-y, pars.
Voilà, c'est ça, je crois que... Alors là, les personnages ont failli en venir aux mains parce que mon perso refusait catégoriquement, et d'ailleurs c'était tout à fait dans son background, il pouvait pas laisser l'autre tuer l'opposant, quoi. Enfin,
ce qu'il faut, c'est bien sentir quand ça, il faut que ça reste du personnage. C'est ça qui est important pour le gardien, notamment.
Ouais, parce que, oui,
et même pour les autres joueurs à côté, hein.
C'est clair. Parce que j'ai déjà eu aussi des oppositions, de personnages, mais qui finissaient, en fait, par des oppositions de joueurs, parce que les joueurs, avaient envie de s'opposer l'un à l'autre, et donc ils utilisaient leurs personnages pour, mais bon, je m'écarte un peu, oui. Ouais. Mais par exemple, oui, les dilemmes moraux, ça me paraît une bonne idée. Maintenant, Steve, il faut pas non plus tomber, trop dans le...
Steve, tu pensais à quoi, alors, dans l'idée?
Moi, il y avait quelque chose aussi qui m'interpellait, même au-delà du philosophique. C'est comment dire, c'est une réflexion, comme je l'ai écrit, quasi mystique. C'est dans le monde de Lovecraft, il n'y a pas de dieu. Il y a des entités cosmiques, extraterrestres, toutes puissantes, qui se nourrissent un peu de l'adoration des humains et d'autres créatures, et qui ont des logiques qui échappe totalement aux humains. Je trouve que c'est intéressant de découvrir cette approche du monde, et je pense que ça sème en nous, et d'ailleurs Kerghan en parlait, il posait la question, les chrétiens.
Il n'aime pas les chrétiens.
Ça pose aussi quelques questions par rapport à la mystique, c'est-à-dire comment est-ce que nous-mêmes on se situe par rapport à la mystique, la question de la divinité, des divinités, ou de l'absence de divinité. Je pense que ça peut être des réflexions qui sont riches pour soi-même. Je sais que par exemple dans ma campagne, il y a actuellement une personne qui interprète un prêtre, et j'ai décidé de jouer un peu sur cette problématique. C'est-à-dire, de temps en temps, il compte opposer au mythe sa propre croyance. On sait que dans le monde de Lovecraft, ça n'a aucun sens. Néanmoins, j'aime bien jouer sur la frange, des fois avec des coïncidences ou d'autres, pour qu'il puisse toujours continuer à croire dans les croyances de son personnage, mais en même temps lui faire réaliser lentement que dans le monde de Lovecraft, il n'y a que le néant. Et je pense que petit à petit, quand on explore cette dimension, il y a vraiment quelque chose de riche qui en sort. Je me souviens d'une scène qui est particulièrement forte, dans laquelle, dans un flashback, ils interprètent leur personnage tout gamin. Et alors qu'il y a une espèce de monstre qui se rue sur leurs camarades, il y a une gamine qui se met à genoux et qui se met à prier, avec la prière qu'on entend dans cette chanson de Metallica, qui dit « Si je meurs avant de me réveiller, emmène mon âme au paradis, je sais pas quoi ». Et en fait, c'est un moment qui était complètement surréaliste, parce que les gens savaient, enfin les joueurs savaient que dans le monde de Lovecraft, Dieu n'existe pas. Mais tout d'un coup, cette gamine se met à genoux et se met à prier.
Elle y croit.
Elle y croyait, et là, il y a eu quelque chose qui s'est passé, la plupart des joueurs se sont barrés, mais il y a le joueur qui a interprété plus tard le prêtre, qui s'est mis à côté d'elle et qui s'est mis à prier aussi. Et je me suis dit, c'est tellement narrativiste, c'est tellement chouette pour l'histoire, que je ne peux pas les massacrer à ce moment-là, il faut qu'il se passe quelque chose.
Ah bah non,
je me suis dit, le monstre passé à côté, voilà, et je l'avais laissé sur cette espèce de sentiment, peut-être finalement que mes prières ont influencé quelque chose. Je voulais pas l'enlever, mais je pense que c'est j'ai pas de conviction, mais c'est un bouillon, hein. C'est intéressant.
Puis c'est tendancieux, parce que ça peut être pire, ça peut être... Enfin, Calémy, finalement, c'est une prière, si c'est orienté vers la créature, dans son sens, ça peut être pire que tout, c'est que finalement, réellement y croire sans être fou, est-ce que ça leur donne pas vie, et leur donne pas une certaine crédibilité, puis finalement, ça les matérialise, ça les rend plus forts, ça les... Non, c'est vachement intéressant. Après, faut pas rentrer dans les poncifs du genre, mais jouer les prêtres et tout, ça peut, enfin... Il faut que ça reste, il faut pas que ça mette des gens mal à l'aise, tu vois.
Entièrement. Il faut faire ça avec des gens qui ont envie d'expliquer.
Moi, je déteste le anti-chrétien qui est une facilité, tu vois, ou le anti-machin, ou le anti-bidule. Faut faire attention. Autour d'une table, c'est des sensibilités. Et quand on attaque ces trucs-là, moi perso, je sais qu'il y a des sujets, si on m'attaque dessus, je vais plus jouer, quoi.
C'est chaud.
Et je joue plus, ça va partir en cacahuète, parce que là je vais faire de l'anti-jeu et je vais briser la partie. Donc C'est vraiment c'est du dosage, c'est-à-dire que là...
Dans le contrat social, si on sent que le scénar s'oriente vers une certaine teinture, un truc que nous, on a du mal à supporter, c'est peut-être bon de faire une petite note au MJ, voilà, de demander pendant la pause et de lui expliquer, tu sais, voilà, dans mon histoire, machin, ou ce sujet-là, pour moi, c'est très très sensible, je suis pas trop fan. Je me souviens, je crois que je l'avais déjà cité, à un moment, dans un scénario, il y avait une histoire avec une araignée géante.
Si t'es un arachnophobe à table, ça
va. Il y a une joueuse qui a vraiment arrêté, qui a dit, excusez-moi, enfin, je veux pas casser la partie, mais je suis très, très, très arachnophobe et je me sens extrêmement mal dans cette scène.
Voilà.
Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Et puis bon, on l'a fait, mais quand vous êtes joueur, pensez-y, dites-le, ne passez pas juste un sale moment.
Pour les trucs vraiment extrêmes. Moi, j'aime pas les araignées, mais si tu me décris une araignée, c'est ce que demandait JP, par exemple, pour avoir les peurs. Au contraire, ça me fout la trouille, mais je suis pas bloqué, attention. Voilà, mais ça me foutra la trouille. Et si tu m'obliges à aller à décrire que je vais tripoter les araignées pour trouver un truc, c'est un peu comme Fort Boyard, quoi. Je vais avoir du mal, je vais dire, ouais, y a pas un moyen de foutre le feu, là, vos merdes, là. Donc là, on a un peu, on arrive vers les derniers points, parce qu'on a un peu glissé vers jouer le personnage. Mm-hmm. Alors, on a mis des choses qui peuvent être profonde, comme jouer un prêtre, jouer quelqu'un qui a des croyances particulières, jouer quelqu'un qui a été confronté à des choses particulières. Après, on peut jouer dans la déconne, en faisant gaffe. Moi, j'ai eu quand même un joueur, je crois que c'était une convention de polytechnique, un mec qui a fait toute la partie avec un putain d'accent. Je crois que c'était un accent italien. Mais le mec, je lui dis, si tu commences avec cet accent-là, je t'autorise pas à arrêter.
Et le mec, tu vas terminer avec l'accent russe.
Et le mec a dit no problem. Et le mec il a joué du feu de Dieu, et pendant toute la partie il parlait comme ça, et tout, t'es toujours avec le mec, il parlait Rital et tout, et manger des spaghettis et tout. Et puis non, on s'est bien marré, et je crois qu'il avait eu d'ailleurs le prix. Disons que toutes ces choses là extrêmes, faites gaffe. Les joueurs mecs qui jouent des femmes, j'en ai jamais vu de crédible. Un mec qui joue l'accent, soit il est vraiment fort, et puis soit ça porte vraiment le scénario, soit ça va me gaver. Enfin, les choses extrêmes, faites gaffe. Les choses, je sais pas, par exemple, vous, tiens, JP, toi, un mec qui veut jouer une femme, tu le laisses faire?
Ouais, je le laisserai faire, mais c'est vrai que c'est jamais très crédible. C'est toujours des femmes machos.
C'est marrant, toi, tu le laisses faire alors que tu sais que potentiellement, il y a 80% de chances que ça passe pas terrible.
En tant que joueur, moi, j'aime bien jouer des personnages un peu sortant de l'ordinaire.
Et donc, changement de sexe ou des choses vraiment... Parce que changement de l'ordinaire, qu'est-ce que t'entends par là?
J'essaie toujours de choisir les types de persos un peu décalés ou hors tranche. J'essaie d'expérimenter des choses par rapport à ça. Alors si un jour on me dit, pourquoi je pourrais pas jouer une femme, pourquoi pas? On va voir comment ça va se
passer. Ouais, mais tu vois, tu joues quoi? Tu joues des marginaux, des drogués, des psychopathes repentis, des choses comme ça?
Ouais, par exemple. Ouais, ça pourrait se faire.
Ouais, mais voilà, mais autour de la table, t'en as pas. Potentiellement, autour de la table, t'as pas forcément des gens qui connaissent des drogués et tout ça. Alors qu'une femme, potentiellement, on a beau être des geeks, on en connaît. Et dans les années 20, elles ont une place très particulière, par exemple, et c'est pas facile. Je sais pas, Steve, toi, t'en penses quoi?
J'en viens un peu. C'est-à-dire qu'au début, j'étais assez indifférent par rapport à ça, et comme ce que disait JP tout à l'heure, c'est que je connais pas non plus de mecs qui joue de manière très crédible une femme.
Ce sera toujours stéréotypé de toute façon.
Ouais, c'est stéréotypé et je sais pas, j'en ai un peu soupé. Et après, il y a une chose aussi qui me gave vraiment en tant que MJ cette fois, voire même en tant que joueur, c'est quand je m'adresse à quelqu'un dans le feu de l'action, j'ai tendance à m'adresser au même genre que le joueur que j'ai en face de moi. Si c'est un mec, je vais dire monsieur, suivez-moi. Et s'il interprète une nana, ça me gaffe parce que je fais sans arrêt.
Ouais. Ramène-toi. Ramène-toi.
Je vais dire s'il vous plaît, ramène-toi. Et puis après, je pense que c'est un trip de. Je vais peut-être faire mon vieux con, mais je pense que c'est une expérience que font les joueurs dans leurs jeunes années. Après.
Voilà. À la limite, sur un one shot, un scénar genre frère de sang, un truc un peu marrant, à la limite, je t'autoriserais. Mais le mec, il me dit, on va jouer les masques, on va jouer les montagnes, et j'ai joué une nana.
S'il s'agit de jouer une nana de manière crédible, alors ouais, effectivement, non. Mais comme tu dis, si on est dans un trip, à la Scooby-Doo ou à la série Z, ouais, là, ça peut être très très fun.
Ça nous amène à une réflexion que je me fais assez fréquemment, alors je sais pas si vous la partagez, c'est que au bout d'un moment, tout perso que je joue va me ressembler. C'est-à-dire, j'aurais beau jouer un mec calme, posé, diplomate, au bout d'un moment, il ressemblera à Vonve. Il sera carrément pas diplomate, il sera pas posé. Et enfin voilà, c'est je sais pas vous ce que vous en pensez. C'est vraiment une réflexion comme ça pour les joueurs, de se dire il faut pas forcément s'éloigner trop de sa nature parce que il y aura des traits qui ressortiront pour moi.
Mais j'ai des joueurs qui sont comme ça. Ils jouent à Donjon, ils jouent à Star Wars, ils jouent à Cthulhu. En fait, ils jouent toujours le même personnage. Ouais. Moi, par contre, quand je suis joueur, j'essaye toujours de jouer des personnages vraiment différents.
Attention, je dis pas jouer le même personnage. Je dis que, au bout d'un moment, des traits de ta personnalité de joueur ressortiront dans le personnage. C'est-à-dire que, si t'es quelqu'un de calme, au bout d'un moment, tu deviendras calme. Ou alors, si t'es un énervé, au bout d'un moment, tu pèteras un câble. Moi, j'ai essayé de jouer des moines Shaolin, laisse tomber, quoi. Au bout d'un moment, c'était bon moine, quoi, laisse tomber. J'ai fait te casser la gueule! Donc, ça n'avait plus grand intérêt. Et bon, en même temps, j'ai jamais refoulé ça, mais c'est quelque chose que je prends en compte. Je me dis, essaie pas de faire un truc complètement à l'opposé de qui tu es, de ta façon de réagir, parce que même ce que tu disais, Steve, c'est que au bout d'un moment, je prends comme postulat que les maîtres avec qui je vais jouer sont bons et que les joueurs autour de moi sont bons. Donc je vais me prendre au jeu comme je me prends au jeu dans un film et que je suis comme ça. Donc si je me prends au jeu, je vais plus réfléchir et je serai plus en train de me dire dans ma fiche, ah oui, c'est vrai. À ce genre de situation, je dois réagir comme ça. Non, je vais réagir dans le feu de l'action, quoi. Il se passe un truc, le MJ me fait un décompte. 3, 2, 1, qu'est-ce que tu fais? Bam, je vais être là, et bam. Donc pour moi, faut garder un petit trait de sa personnalité qu'on connaît. Et puis en plus, c'est sympa, ça permet de mieux se connaître. Soit de se dire, j'essaie de pas trop m'éloigner. Alors bien sûr, je suis d'accord avec toi, JP, faut pas qu'on reste toujours dans les mêmes personnages. Il y en a marre, hein, tu joues à chaque fois un intello à lunettes, à gauler comme un Mickey qui fait de l'informatique. Bah oui, mais en même temps, j'adore ce type de personnage, très en couleur. Non, ouais, j'ai envie de descendre en plus. Non, mais c'est juste des traits, quoi. Des traits de ta personnalité. Par exemple, à Deltarune, tu vas jouer moi, je jouerais bien, avec plaisir, un mec qui fait de l'informatique. J'aime bien la voile, donc je jouerais bien un voileux dans les années 20, un mec qui a son yacht. Essayez de prendre des points de votre personnalité que vous aimeriez ressortir dans le personnage, je trouve. C'est quelque chose qui ressortira de façon naturelle en plus.
Ouais, c'est clair.
C'est vrai.
Donc ça c'était pour la joie. On parlait aussi, ça c'est toi avec JP qu'on avait parlé au début de ce podcast, parce qu'il va falloir qu'on termine comme dans pas trop longtemps. Mais c'était une des phases qui peut et qui va falloir peut-être jouer, c'est la folie.
La folie.
À moins qu'un de vos joueurs ait déjà été fou et qu'il sache comment ça se passe. Sinon, JP, comment jouer la folie alors? Comment faire?
Difficile question. Oui, c'est juste. Mais non, c'est parce que j'ai déjà eu l'occasion de jouer la folie de mon personnage.
Comment faisais-tu?
Et donc, la paranoïa.
Comment tu jouais paranoïa?
Se méfier de tout le monde, entendre des bruits, voilà ça, par exemple, comme tu fais là.
Voilà.
Ouais, non, le personnage était agité, courait dans tous les sens.
L'intérêt qu'il faut se dire, c'est que le fou a sa propre logique. Alors après, je suis pas un théoricien de la folie, mais de se dire que t'as ta propre logique. Il faut pas que ça soit n'importe quoi. Si par exemple tu joues un paranoïaque, il va toujours être sur le qui-vive, et puis voilà, vous allez lui dire écoute, toi qui es un peu vif maintenant, tu vas rester à l'entrée puis tu vas surveiller la porte. Vous jouez le paranoïaque. Vous n'allez pas forcément rester à regarder à droite à gauche en étant flippé. Et puis à sursauter et sortir votre flingue et tirer sur les mecs quand ils vont revenir parce qu'ils vous ont pas prévenu. Non. Vous pouvez avoir vu un truc de l'autre côté de la rue et vous dire, ça se trouve, et hop, vous vous barrez.
Obliger les autres joueurs, enfin les autres persos, à devoir prendre soin du personnage qui est le
voilà, fou, exactement. Qui a pété un câble. Il faut être super relou, quoi.
Dans ce cas-là, c'était pas vraiment une folie permanente. C'était plutôt une crise. Et donc les joueurs ont dû maîtriser, enfin les autres personnes ont dû maîtriser mon personnage, qui voulait se barrer, qui hurlait.
Ce qu'il faut, c'est être cohérent en les surprenant. Moi, je trouve que c'est assez sympa, c'est que quand le gardien, moi souvent ce que je fais, c'est que je donne un papier en disant, à partir de maintenant, t'es fou. Voilà. Et t'as la folie des arbres. Tu le laisses au mec et tu vas le mettre en situation et ce sera lui de gérer. pour pas que ça fasse trop. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi, de ton côté, Steve. Mais jouer la folie, c'est pas facile.
Bah, en fait, pour moi, c'est un très très vaste sujet. Je vais pas trop m'y aventurer parce que ça pourrait générer un podcast à lui tout seul. Je pense qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses à dire. Et il y a 10 000 folies, il y a 10 000 folies différentes. Mais si je dois rester général,
les fondements,
dirais...
voilà.
Ouais, alors, très général, éviter les clichés télévisuels du genre excuse-moi JP, mais oh là là, des dents, j'ai le pinceau accroché au plafond,
bon, ouais, non.
Tu vois, ou le gars parano qui
fait
5 secondes genre mais qu'est-ce qui se passe sans arrêt, disons essayez de surprendre les gens avec lesquels vous jouez en jouant ça de manière un petit peu plus riche, un petit peu moins dans les clichés. Faites du plaisir avec les clichés sur le reste de votre interprétation, mais dans la folie, essayez vraiment de surprendre. Alternez les moments où vous parlez beaucoup, les moments où vous parlez peu. Essayez vraiment de vous adapter aussi à la folie que vous avez, parce que comme on dit, il y a vraiment plein de folies différentes. Et surtout, moi, en tant que joueur, il n'y a rien qui m'énerve plus que les clichés débiles à table quand des gens jouent la folie. Par exemple, les gens qui n'arrêtent pas d'hurler, ou les gens qui fuient tout le temps, ou les gens qui sont tout le temps en catatonie. Je pense qu'on peut mettre un jeu plus riche.
Ils sont calmes quand ils sont en catatonie.
Pour moi, la folie peut être un moyen des joueurs de faire peur aux autres joueurs. Moi, ça m'est souvent arrivé.
En étant inquiétant, ou pas forcément parce que les gens font.
Imprévisible, tu bouges pas, pote. Voilà.
Ouais, tu
bouges parce que comme tu deviens fou, on sait plus trop comment tu vas faire, donc tu vas rester à pas bouger pendant 10 minutes.
D'un
seul coup, tu vas te retourner vers.
Typiquement, vous regardez un film sur la possession, je sais pas moi, l'exorciste, le dernier exorcisme d'Emily Rose ou ce genre de choses, et regardez ce qui se passe quand la personne qui est possédée est sous emprise. Souvent, dans son regard, il y a quelque chose qui se transforme et qui en fait quelque chose de très 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 inquiétant. Il suffit même qu'elle soit juste dans la pièce à observer quelqu'un. Et tout de suite, il y a un grand malaise qui se diffuse. Ben, je pense que c'est pareil quand on est irrémédiablement.
Honnêtement,
il y a une question dans le
Il suffit qu'en tant que joueur, vous avez une folie ou vous venez de l'avoir et c'est pas encore révélé, puis vous vous mettez comme ça, tu sais, puis pendant toute la partie, vous regardez un joueur en souriant, tu sais. Genre, vous faites ça pendant 10 minutes, sans parler. L'intérêt du jeu de rôle, c'est que vous vous en foutez, vous n'êtes pas obligé de parler. Et il suffit que le gardien le sache et c'est bon, tu sais.
C'est du métal.
Dans le truc, au bout d'un moment, t'as envie de péter la tête, tu dis arrête. Il me saoule.
Si je me souviens de cette histoire de folie pour mon perso, je pense que c'était un truc où dans une pièce ou dans un espace clos, il y avait quelque chose qui générait la folie. Mon perso s'y est engagé, il est ressorti complètement perturbé. Les autres personnages ne savaient pas exactement ce qu'il y avait dans cette pièce. Et là, bon. Tu génères là, effectivement ce que Vaughn tu évoquais, c'est la peur chez les autres personnes de s'exposer à cette folie potentielle aussi.
C'est qu'en plus, l'intérêt, c'est ce que tu dis, c'est sur quoi il faut jouer, c'est que souvent quand vous êtes confronté à la folie, vous avez une donnée en plus que n'ont pas les autres joueurs. Mmh. Vous avez vu un truc, vous avez lu un truc, et donc vous allez revenir, et rien que de jouer à la folie en décrivant à chaque fois qu'on vous demande différemment la chose. Genre, oui, elle était grande, elle était blonde, et elle avait un truc et tout. Puis le mec vous remonte 10 minutes plus tard, elle fait, bah la petite brune, ouais. Je pensais bien qu'elle. Puis au bout d'un moment, enfin, elle était blonde ou brune. Tu parles de. Ah, voilà, c'est ce que j'allais dire. Enfin, et en plus, vous faites plaisir, vous faites des trucs plutôt marrants, et mais vous êtes cohérent bizarrement, vous êtes. Vous
avez votre propre logique.
Hein. Ouais, c'est ça.
Voilà. Après ça peut être des trucs à la con, vous pouvez vouloir je sais pas remonter le temps, remonter le scénario ou persuader les autres joueurs que vous savez ce qui va se passer à la fin.
J'ai eu à ma table des joueurs qui ont un personnage qui était devenu fou et qui a commencé à tirer à braquer les autres. Ça a terminé, ça a dégénéré en fusillade entre persos parce que ce qui était assez amusant, c'est que le personnage fou voulait tuer ses coéquipiers et les autres voulaient essayer de le neutraliser, donc ça
le fou, c'est ça, il faut qu'il, alors le côté sympa c'est de le jouer un peu tendancieux. Par exemple, vous mettez un anneau au doigt et vous êtes possédé, il faut pas non plus que vous vous rendiez obligatoirement cible, quoi. Il faut pas que du fait que vous ayez le truc, que vous tramaliez une cible sur la tête et que tout le monde va vous tuer. Mais genre, vous essayez toujours de vous placer, par exemple, à côté du joueur qui est le plus flippé. Genre, mais il est où, mais... Non, mais il est à côté de toi, c'est bon. Si, mais il est toujours à côté de toi. Et, mais il a retiré son anneau? Oui, oui, non, mais je vais le retirer. Regarde. Non, c'est bon. Et hop. Et donc, tu repars sur autre chose. Et... Mais il a retiré son anneau? Non, non, il l'a absolument pas, il l'a pas retiré. Enfin, il faut, c'est ce que vous dites, il faut éviter les clichés, mais faire un truc sympa et qui porte du background ou, par exemple, vous avez un truc sympa, c'est le mec qui a peur de l'écrit, qui va pas le dire. Et moi c'est arrivé à un joueur, on lui confie tous les bouquins, et il revient le lendemain, il fait, putain, mais c'est bizarre, tu sens un peu le brûlé, non? Le mec, il arrive, il fait, non, absolument pas, non. En fait, pendant toute la soirée, il avait cramé dans sa cheminée, il avait cramé tous les bouquins qu'ils avaient ramenés, quoi. Bon. Et le mec, il fait, putain, on avait un truc à...
$5000 de bouquins, bordel de merde.
Voilà, et puis en plus, t'avais un personnage qui était plutôt lié au bouquin, et lui, quand il a gueulé, c'était pas les bouquins lui-même, il a fait putain la caution de la bibliothèque, comment je vais me faire gueuler, quoi.
Ouais, il y a Kergan qui donne quelques bonnes pistes aussi, ouais, sur le chat pour l'instant. Et il se rappelle effectivement l'épisode où mon perso avait respiré un liquide qui se... Non, il y avait un truc qui brûlait dans la...
C'est bon, ça. De parler à un type invisible, c'est très bon, ça.
Ouais, c'est bien, s'il a halluciné.
Ça, ça en partie, ça va bien rendre, ça.
Il y a une chose aussi que disait Dimpy tout à l'heure, mais on peut peut-être un peu approfondir, c'est le fait d'être un poids pour les autres. Devenez un poids pour les autres, mais toujours dans le pire moment. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, on va essayer de vous les suivre. Oui, ça va. Et puis dès qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est à ce moment-là où vous agrippez à un autre personnage. Et... Enfin, vous voyez.
Il faut être silencieux et commencer à hurler.
Donner du jeu. Ouais.
Pourquoi?
Ah, c'est vrai que ça peut...
Non, vous... être gentil. Arrête, c'est une araignée de langue.
Et puis en plus, faut savoir que le sentiment de malaise peut très vite monter. C'est genre vous retournez toutes les 5 minutes vers la personne qui est à droite, on est toujours amis. Hein. D'accord.
Le
mec qui me fait 10 fois sans la partie, au bout d'un moment,
le ramène d'eux-mêmes à l'asile. Hein, il faudrait que ça se termine comme ça. Il faudrait qu'au bout d'un moment, non, il est trop dangereux, on l'emmène.
On peut pas le garder. On va l'attacher à un arbre, on va l'abandonner.
Et puis le pire, c'est que s'il joue ça, comme tu disais, JP, tu sais, puis en plus, faut jouer un peu subtil, genre, t'es à distance, le mec est en train de se battre avec un autre, et toi, t'es au flingue, et paf, sans faire exprès, en réalité, tu as fait exprès, mais tu le dis pas, tu tires sur ton copain. Et tu sais, le mec, il pisse le sang, il a la jambe, mais tu là, t'arrives près de lui, et si tu l'as dit 10 fois de suite avant, tu fais, on est toujours amis, hein. Tu vas lui flinguer la jambe, quoi.
Je la replace là, celle-là.
L'idée, c'est d'éviter qu'ils aient vraiment envie de te défoncer. Moi, j'ai vu des fois où t'as envie de défoncer le joueur, quoi. Tu dis, c'est trop un poids, il va rien nous apporter. Mais si par exemple, vous avez lu quelque chose, vous êtes devenu fou, mais il faut que de temps en temps vous balancez des bribes. Azathoth. Mais pourquoi, non, t'as dit quoi là? Non, hein? Non, ouais. Non, hein. Et le mec, il dit des bribes. Il va dire, fermez le portail. Hein? Non, je disais qu'il faudrait fermer la porte parce qu'il y a des courants d'air. Hein? Non, t'as dit fermez le portail, j'ai bien entendu. T'es relou. Donc voilà.
Ouais, pas mal.
Donc jouer la folie. Alors après, là, c'est facile parce qu'on n'est pas en jeu. Après, en jeu, pendant une
partie, si vous êtes deux autre chose,
fous, hein. Voilà, au bout de deux heures, que vous avez deux heures à tenir. Moi, j'ai vu un joueur jouer la folie. Il était pas fou, mais au bout d'un moment, il avait perdu pas mal de santé mentale, et au moment où l'équipe se recrée pour les masques, et il y a deux nouveaux joueurs qui arrivent avec des nouveaux personnages, ils arrivaient en bateau, et au moment où l'espèce de passerelle se baisse, le mec, il a acheté la passerelle à la flotte, et il dit, partez! Une année d'équipe. Ça n'a pas été facile. C'est qui le monsieur en bas qui bave? Ben, c'est le monsieur qui, c'est notre contact. Donc, ouais, je pense qu'on a quand même fait pas mal le tour, puis en plus il est tard. On a parlé de la préparation avec les règles d'or, quoi lire, comment choisir son gardien. On a parlé de l'investigateur avec la description, l'historique, les compétences, comment investiguer, et un peu comment faire des cascades. On a pas mal parlé du joueur, c'est intéressant, je pense. Donc, notamment mes buts quand je vais en partie. Comment jouer mon personnage trop, pas assez. Pour tous ces trucs-là, très honnêtement, il y a des très très bons destinations aventures dans les anciens Casus Belli. notamment comment trop jouer mon personnage, c'est excellent, avec des scrapounas et tout. Ah mais mon personnage, il est comme ça, il fonce, et quand il est en voiture, il fonce, et quand il prend une naine, il prend 20 kilos et tout. Et, et puis il se fait défoncer par les joueurs, ils font laisse tomber. Donc on avait parlé de jouer mon personnage, de jouer la folie. Une remarque de JP qui est très très intéressante, qui est pas facile. Hein. C'est pas. Mm-hmm. Puis en plus, là, on n'a pas forcément
trop de simple.
Et puis, et en plus, si on a des exemples, je pense que ce soit dans ses proches et tout, on n'aura pas envie de le jouer. Donc, de fait, on n'aura pas d'exemple si on veut jouer la folie. Alors, ce dont on n'a pas trop parlé, mais bon, c'était moins grave, c'était comment jouer en équipe. Donc ça, les trucs et astuces qu'on donnait, c'était plus pour savoir jauger. Si vous allez jouer en groupe hein, pendant 4-5 heures avec d'autres personnes, rapidement savoir sur qui vous allez pouvoir vous reposer, quel mec qui va parler, parce que moi par exemple je veux pas parler tout le temps, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire, donc je vais essayer de repérer dans la partie quel est le type qui lui va parler, ou quel est, par exemple, si vous êtes un peu discret, mais vous voyez qu'il y en a un qui parle beaucoup, bah, c'est à la limite, c'est à lui que vous allez donner vos informations pour qu'il les remonte, si vous voulez pas les donner vous-même. Et puis s'il y en a un qui aime l'action et que vous aimez pas l'action, vous allez toujours lui dire « Bill, je crois que cette... porte, derrière cette porte, il y a quelque chose pour toi. » Et hop, il va y aller en défonçant la porte et c'est parti. Donc ça, c'est du dosage. Mm-hmm. Ce que tu disais aussi, Steve, d'important, et notamment quand on parlait du gardien qui doit filer les endroits où fouiller, c'est aider les nouveaux à se mettre à l'aise. Alors, ce qui peut être sympa, c'est que si dans un groupe, vous voyez qu'aussitôt, il y en a un qui va le prendre sous sa coupe, vous pouvez jouer le chieur. C'est-à-dire que s'il y en a un qui vient aider le nouveau joueur, et qu'il est déjà assez aidé comme ça, vous allez pouvoir jouer le casse-couille à l'inverse. Si le mec il a fait le mauvais réflexe et tout, mais en tant que joueur, hein, pas en tant que investigateur, pas en tant que joueur. Hein. Mais je t'avais dit de surveiller la porte, mais t'as fait quoi, putain, mais tu t'es retourné, mais t'es complètement con. Voilà. Et vous énervez comme ça. Pardon. Et vous énervez. Si le mec est déjà secondé, faut pas tous le défoncer.
Si ouais, sinon il va se dire c'est quoi ça.
On sera de moins en moins drôliste. Et ce qu'on se disait aussi, c'est des points de vue s'organiser, de faire des points assez fréquents avec les autres joueurs, ça c'est important. Parce que souvent,
c'est quand même rien à dire. C'est-à-dire qu'à un moment dans le jeu, quand chacun dans son coin sèche un peu, tiens, mais qu'est-ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va, ben, n'hésitez pas, ben, ça vient naturellement, mais faites des discussions entre joueurs. Faites un point, tiens, ben, est-ce que ça on l'a fait, c'est toi qui as le bouquin, t'es sûr que tu l'as lu. Souvent ça réactive pas mal de pistes, et quand il y a chacun dans son coin qui note des informations, des indices sur la partie, et que il y a personne qui centralise tous les indices, ben, c'est un moment où on peut redonner des indices qui nous disaient rien, et les autres vont rebondir dessus. Mais attends, t'as parlé d'une femme avec une robe blanche, mais on nous a pas dit que la voisine, elle se prenait toujours avec sa robe de mariée, elle était un peu siphonnée. Ah ben, on va la voir. Enfin, tu vois, ce genre de choses.
C'est l'organisation interne du groupe qui doit se créer. Ouais. De toute façon.
Oui, complètement.
Et puis pas hésiter si vous vous sentez pas forcément tout de suite à l'aise avec le groupe, ou voilà, si vous les descriptions, votre perso, il y a des joueurs, c'est ça, qui adorent noter tout ça, qui adorent récapituler, et c'est des joueurs capitaux qui vont peut-être uniquement parler quand vous êtes entre joueurs et pas interagir forcément avec les PNJ, mais voilà, une équipe
qui s'amuseront à faire.
Il y a des joueurs que ça va éclater de prendre des notes et de refaire des schémas et tout ça. Messieurs, suite à cette énorme podcast, est-ce que vous avez des idées? Alors, je pense qu'on a encore lâché la sauce, hein, comme on dit, mais je sais pas, est-ce que vous avez des petits points à rajouter avant qu'on coupe et on lance l'encodage? Je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour.
On a fait le tour, hein. Moi, je regarde.
C'est sympa en plus de se mettre du côté des joueurs, je trouve.
Ouais.
Et surtout, bon, si vous êtes très très souvent gardien et si vous jouez avec les mêmes personnes ou quoi que ce soit, de temps en temps, même si vous êtes persuadé que c'est pas votre trip, passez un petit peu de l'autre côté. Ça fait toujours du bien. On se remet en cause, on s'aperçoit des défauts et on se dit qu'on faisait peut-être les mêmes. Enfin, voilà. Pour moi, on peut pas être un excellent gardien en étant un excessivement mauvais joueur et inversement. Enfin, pour moi, il y a un peu du dosage de tout. Moi, j'ai jamais vu d'excellents joueurs qui étaient de super mauvais gardiens, et inversement. Il y en a qui sont plus faits pour l'un ou pour l'autre, surtout si on n'est pas très nombreux dans le groupe, mais ça va. Et de temps en temps, en plus, ça fait du bien de se foutre les pieds sous la table et d'arriver et de faire chier un mec qui a préparé pendant 2 semaines. qui a fait les quêtes de jeu de Steve, donc qui a acheté du thé, qui a acheté des Mickey, des machins, des chamallows pour faire des fausses tentacules et tout. Et puis là, vous rentrez pas dans la pièce. Et Corgan a dit que pour JP, quand vous rentrez pas dans la pièce, il retourne le plan. C'était marqué dans le chat.
Oh putain, il a dit ça.
Mais oui, parce que je l'ai lu.
C'était un volontaire.
Il va lui mettre à smiley. Shayan, c'était encore là, mais il va smiley. Il voulait aller à droite, c'était à gauche, et ben JP, il a retourné le plan.
Ouais, maintenant, s'il dit tous mes secrets, c'est pas normal. Hein.
Voilà. Faudra qu'on l'invite, Karian, à un prochain podcast. Ouais. Bon, bien sûr, on va se coucher. Donc, on va remercier. Au début, on était assez nombreux. J'ai vu 7 ou 8 lecteurs, mais là, on n'est plus que deux, un peu tard.
Ouais, c'est normal.
Et le plan des égouts, il dit, c'est Karian qui l'a reçu.
On a déjà joué à Donjon. Je me souviens. C'était il y a longtemps. Hein.
Donc, merci à tous ceux qui sont venus sur le chat. Et merci à ceux qui l'ont regardé, merci, puis merci à vous qui allez l'écouter. Donc ça a plutôt plu, donc on va essayer de continuer. On n'a pas encore de sujet, parce que là on a quand même fait pas mal de tours avec... Bon, il y a toujours des sujets, puis sinon on lâchera Steve sur la folie ou sur le narrativisme. On en fera un en... Non, mais on aura toujours des sujets, mais n'hésitez pas, hein, parce qu'il y a peut-être des sujets auxquels on pense pas du tout, parce que c'est pas notre façon de jouer tout ça. Mais voilà, donc on va vous souhaiter une bonne nuit. Et je vais vous dire, fumez les poulpes.